Moi, sur ce qui s'est passé en maths,
j'allais dire l'année dernière, le siècle dernier. Donc moi, j'ai mis comme grand chapeau qu'il y a eu des tas de choses au niveau des fondations des mathématiques. Le siècle dernier, il y a eu à peu près une révolution totale au niveau des fondations, pas forcément de la façon dont les mathématiciens usuels font leurs théorèmes, mais sur comment, au départ, en dessous, comment les mathématiciens pensent les maths, et comment ils ont ce qu'on appelle la logique, tout simplement. Après, l'autre truc qui est vraiment...
Ça, il parle pour sa chapelle. Hein.
Bien sûr. Après, l'autre truc qui est vraiment sidérant et qui est arrivé au siècle dernier, c'est l'ordinateur. Ça a totalement changé la façon dont les matheux... Bon, il y a quand même des matheux qui font encore une fois des théorèmes sans avoir touché un ordinateur de leur vie. Je pense que ça existe.
Ouais, bien sûr.
Mais en même temps, ça a vraiment révolutionné des pans entiers des maths. Et des fois, on peut même penser que les maths, c'est carrément devenu une science expérimentale dans certains domaines. Les gens commencent par jouer avec l'ordinateur, se disent tiens, c'est marrant, ça se passe toujours comme ça. Bon, ben, ça doit être un théorème. Et après, essayent de les montrer. Il y a même des cas où on ne se sert pas l'ordinateur comme un truc d'expérience. On essaie au contraire, on a un théorème qu'on veut. Et là, au contraire, l'ordinateur nous aide à prouver ce qu'on veut prouver. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ordinateur comme assistant de preuve. Là, c'est typiquement le truc sur lequel moi je bosse. Mais bon, voilà, ça peut être. De la même façon que les physiciens, ils ont leurs éprouvettes, on peut avoir l'ordinateur comme machine de test, on peut arriver à faire tourner, avoir des belles images et des tas de trucs comme ça, et on peut aussi avoir l'ordinateur comme assistant, comme secrétaire qui va faire les vérifications crétines d'une preuve.
Il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que souvent on a l'idée, on a l'impression que les maths, tout a été trouvé.
Ah oui, ça, effectivement, si jamais vous venez avec ce genre d'idée, il faut l'oublier tout de suite.
Donc en fait, il y a un ensemble de préjugés sur la recherche mathématique. Tu dis qu'on a l'impression que tout a été trouvé, ce qui n'est pas vrai. C'était Dieudonné qui avait fait une estimation en 80, 80 et quelques, et il avait compté le nombre de théorèmes qui avaient été démontrés. Et il a montré qu'en fait, entre l'Antiquité et 1940...
Dieudonné, c'est pas le sujet que vous connaissez.
Non, c'est pas, oui, c'est Jean Dieudonné qui est mort en 90, quelque chose comme ça. Il n'est pas mort si longtemps que ça. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Un panorama des mathématiques pures, donc c'est une sorte de. Quelqu'un qui, enfin, comme il a côtoyé beaucoup de mathématiciens, c'est un mathématicien, il s'est intéressé à la fin de sa carrière. Donc peut-être un bouquin que je peux vous ramener, parce qu'il donne un peu des. Enfin, c'est, en tout cas, dans la vidéo, il fait partie des bouquins qui sont intéressants sur les mathématiques secs.
Je dois pouvoir leur laisser la référence. En fait, je n'ai pas présenté, donc moi, vous connaissez mon nom parce que vous m'avez contacté, mais le cher monsieur qui est là est Alexandre Michel. Vous pourrez regarder un peu ce qu'il fait, il y a des pages web et des choses comme ça. Tiens, si tu veux, mettre la référence du bouquin en question.
Alors, panorama des mathématiques pures. Alors, c'est pour l'honneur de l'esprit humain qui en parle. Donc, pour l'honneur de l'esprit humain. Donc, vous l'empruntez dans une bibliothèque, vous trouvez ça sans trop de difficultés. C'est Jean Dieudonné. Et Dieudonné, c'est écrit comme Dieudonné. Ce qui est un peu comme Dieudonné. Et il avait fait une estimation, et c'est lui qui avait dit un truc moi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'avais regardé ça. Enfin, la première fois que j'ai lu ce bouquin, je devais avoir 20 ans. Et il avait écrit, il y a eu à peu près autant de mathématiques qui ont été démontrées entre donc, l'Antiquité grecque et 1940, donc la Deuxième Guerre mondiale, que entre 1940 et aujourd'hui. Vous voyez la différence? D'un côté, vous avez 25 siècles, de l'autre côté, vous avez 50 ans.
Mais ça, c'est dû à...
C'est dû au fait que c'est plus de mathématiciens, ça a fait beaucoup plus de choses.
C'est effectivement le troisième point que j'avais dit, ce qui a changé vraiment en mathématiques. Donc il y a les coûts des fondations. La logique a totalement changé, la façon dont on pense la logique a changé. Il y a l'ordinateur. Troisième point, après, c'est les considérations humaines, c'est-à-dire qu'il y a bien plus de chercheurs. En gros, il y a une exponentielle.
Mais ça va plus vite aussi pour prouver quelque chose.
Non, pas forcément, parce qu'on a fini par quelque part épuiser. J'ai envie de dire les trucs crétins, idiots, les trucs faciles, on se sent quand même déjà pas mal épuisés. Par contre, le nombre de personnes qui viennent et aussi le fait qu'il y a tout un bagage. Donc, c'est comme la citation classique, c'est des nains qui s'appuient sur les épaules de géants. Il ne faut pas dire que les mathématiciens sont des nains, c'est pas vrai, mais disons qu'on s'appuie sur les choses qui étaient déjà là avant. Donc, si jamais quelqu'un a déjà fait 150 théorèmes sur un domaine, si déjà on comprend qu'est-ce que c'est que ces 150 théorèmes, ce qu'ils disent exactement, du coup on a une meilleure compréhension du domaine, et c'est plus facile de 1 voir ce qui peut se montrer à côté, et deuxièmement, de reprendre éventuellement les méthodes de ce qui a été fait avant. Par exemple, dans notre domaine, il y a des gens qui ont fait des preuves, des trucs de terminaison forte. Il y a un gars qui est venu avec une méthode fracassante pour arriver à faire ce genre de méthode. Et du coup, tout le monde utilisait la même méthode, pas sur la même preuve, mais sur des choses similaires. Il y a une technique qui a été inventée un jour par quelqu'un, et moi j'ai toujours du mal à comprendre comment il a eu ce genre d'idée, mais une fois que c'est là, on s'en sert. Donc l'explosion du nombre de résultats, c'est aussi parce qu'il y a des gens brillants qui sont passés avant, qui ont fourni des nouvelles méthodes, et comme il y a de plus en plus de personnes qui viennent là, il y en a de plus en plus de brillants, et qui de plus en plus qui viennent avec des nouveaux résultats. Et
puis il y a aussi le fait que c'est la multiplication du nombre de structures mathématiques qui est... En fait, la transformation des maths, c'est pas vraiment en réalité le XXe siècle, c'est plutôt la deuxième moitié du XIXe.
On a commencé à avoir des mathématiciens professionnels, des gens qui faisaient que ça.
C'est pas du moment où il y a eu la théorie des groupes, c'est au moment où on a commencé à avoir les grandes structures. Donc il y a eu une architecture des maths qui est devenue beaucoup plus claire, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté l'algèbre, il y avait de l'autre côté... toutes les structures algébriques qui ont poussé. Vous, les algèbres, vous n'avez pas vu grand-chose normalement, vous avez vu les équations.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire le tout petit début de l'algèbre. Il y a les structures ordonnées, il y a toute la théorie des groupes, tout ce qui était algèbre, tout ce qui était analyse, il y a eu plein de compréhensions de choses. Et, en gros, les structures mathématiques ont vraiment on a commencé à bien les comprendre parce que la deuxième moitié du 19e. La logique est venue dans le mouvement, en fait. Vraiment venue dans le mouvement.
Pour vous donner une idée, la logique, c'est la cave, c'est les premiers agglos tout en bas de la maison. Après, ce dont parle Alexandre, c'est, j'ai envie de dire, les murs, les pans de murs, c'est les grandes structures porteuses qui permettent à tout le monde de vaguement figer un peu, mais pas forcément figer, mais structurer les choses. Donc il y a des grands domaines comme les groupes ou d'autres choses. Et bon, après, une fois qu'on a une belle maison avec des murs, des fondations, c'est plus simple d'aller mettre des belles fenêtres et des choses comme ça au-dessus. Après, il ne faut pas croire non plus que c'est parce qu'on a énormément plus de gens qu'on est en train d'épuiser les résultats. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient, il débroussaille son domaine, éventuellement il se met à chercher sur un théorème fameux que tout le monde a envie de démontrer, et en chemin, il se pose 40 questions.
40 questions.
Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec une réponse, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un théorème qui était plutôt d'une conjecture, c'est-à-dire un théorème pas prouvé, qui a été... réglé il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle le théorème de Fermat, qui traînait depuis des lustres, et en chemin, il a fallu que la personne qui a réglé ça termine 3 ou 4 autres conjectures, et probablement que ce gars-là a des tas d'autres questions maintenant dans sa tête sur qu'est-ce qu'on peut prouver à côté de ça. Donc à chaque fois qu'il y a une réponse...
Il faut donner des conjectures.
Ah oui, bah oui.
Parce que moi, à l'époque, quand j'étais gamin, quand j'avais votre âge, c'était le théorème de Fermat, et évidemment, tous les maths, je ne sais pas quoi, mais on se promettait qu'on allait le démontrer. C'est pas nous qui devons le montrer, c'est un autre.
Non, il reste des tas de questions ouvertes, et j'ai envie de dire que le plus il y a de mathématiciens qui viennent travailler dans le domaine, à chaque fois ils se reposent de nouvelles questions, ils se disent tiens, c'est marrant, ça a l'air d'être toujours le cas, ça a l'air de marcher mon intuition sur un certain résultat. Alors du coup, maintenant qu'on a l'ordinateur, par exemple, si c'est sur un domaine qui est facilement mettable dans un ordinateur tel que les questions de nombre, par exemple Fermat, c'est génial. Fermat, c'est une équation, alors on prend tous les nombres et on essaye, et tout pendant que ça a l'air de tenir, on se dit tiens, c'est vrai, ça a l'air de tenir sur 1 million de situations. Bon, allez, maintenant on a la ferme conviction que c'est un théorème. Donc avec le plus en plus de nombres et le plus en plus d'ordinateurs, le nombre de conjectures grimpe également. Et derrière, il n'y a pas, sachant que avoir une intuition, bon, ça se fait. Avoir une preuve de l'intuition, là par contre, ça peut prendre des années, des siècles.
Ça a pris 350 ans.
Ça a pris 350 ans. Donc en gros, les mathématiques, c'est en perpétuelle évolution.
La question et la personne qui trouve la réponse, 350 ans.
C'est en perpétuelle évolution. Des gens viennent, règlent des questions précédentes, mais en réglant les questions, parfois, ils en trouvent des nouvelles. Et donc, il y a de nouvelles questions qui apparaissent. Et, c'est une boucle sans fin.
Le mathématicien Gauss disait qu'il avait séché sur le signe d'un nombre dans une équation pendant 14 ans. Donc ça, c'est aussi un truc qui est important de savoir dans les questions de recherche, c'est que c'est une question que je posais moi quand j'étais en lycée, mais j'ai enseigné en lycée un peu avant, je pense que je m'attendais à ça. Et c'était, je demandais à mes élèves, c'est combien de temps vous trouvez qu'il est normal de consacrer à chercher une solution.
Combien de temps vous en avez marre? Au bout de combien de temps vous regardez la solution?
Et puis dans un problème,
combien de temps vous passez à autre chose?
Et le temps de rédaction, le temps de recherche. Combien de temps vous estimez normal de passer à la plus plupart de gens disent voilà, faut pas chercher trop longtemps quand même, etc. Sinon c'est pas bien, compagnie, parce qu'on n'est pas fort. Alors qu'en fait, le métier de chercheur, c'est 95%, 99% du temps à chercher des trucs et on ne trouve pas. Et on ne trouve pas, et c'est normal, c'est un truc difficile. Si les autres n'ont pas trouvé, c'est parce que c'était difficile.
Et la principale différence entre les cours de maths et après le boulot de chercheur, c'est quelque part, quand on s'attaque à un problème, a priori, il n'y a pas la solution. Voilà.
C'est que
souvent, quand on est en train de faire un cours de maths, la tentation est grande de se dire oula, bon, il y en a marre, on tourne la page, on va voir la solution qui est derrière, ou on va demander au grand frère, ou on va demander. Et alors, bon, en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en cherchant, même sans forcément trouver, on cherche un certain temps, donc on a une certaine compréhension intime du problème, même si on n'arrive pas à trouver la solution. Et une fois qu'on en a marre, bah, quelqu'un nous montre, alors du coup, si on décortique bien la solution, peut-être que du coup, si on a de nouveau un problème similaire la fois d'après, on est capable de la régler. Là, la différence pour nous, c'est qu'on n'a pas de personne à qui demander la solution. Là, il y a un parallèle rigolo avec un casse-tête en bois, un jouet qu'on m'avait refilé quand j'étais gamin. Et donc c'est une jolie boîte dans laquelle il y a des pièces en bois qu'il faut assembler pour faire une forme particulière. Évidemment, c'est pas fait pour être simple. Et on m'avait filé, enfin en gros, je me souviens jamais de l'avoir vu monter précédemment. On m'avait donné un tas de pièces. Et en plus, dans la boîte, il n'y a pas la solution. Donc à chaque fois que j'ai réessayé de trouver ce truc-là, ça m'exaspérait parce que je ne retrouvais pas la solution. Donc du coup, de guerre lasse, j'étais obligé de ranger dans ma boîte toutes mes pièces dans le désordre et de reposer ça sur un étagère parce que j'en avais marre. Là, pareil, s'il y avait eu la solution, j'aurais probablement craqué au bout d'une semaine, 15 jours, 6 mois, 1 an, je ne sais pas, mais j'aurais craqué, j'aurais regardé la solution, comment ça marche. J'avais pas la solution. Bon, bah, de guerre là, les pièces sont restées en tas dans une boîte, et de temps en temps, je revenais à la charge. Je revenais à la charge une fois tous les 2 ans, un truc comme ça. Et de guerre là, j'ai retrouvé ma boîte encore, j'ai remis le nez dedans il y a quelques semaines, et là, ce coup-là, en étant un peu plus rusé que les fois d'avant, bah, j'ai fini par réussir à remonter mon problème. Donc ça m'a pris une vingtaine d'années, j'étais tout content, j'ai réussi à monter mon casse-tête. Bon, voilà, c'est ça le boulot de chercheur, c'est de ne pas avoir peur de sécher pendant des années. Et un jour, on ne sait pas vraiment pourquoi on est plus malin que la fois d'avant. Mais parfois puis, les pièces s'emboîtent.
Et puis on regarde plein de problèmes en même temps.
Oui, parce que si jamais on reste sur un problème, c'est un coup à devenir schizophrène. Là, en l'occurrence, mon problème, j'ai pas fait que ça pendant 20 ans, évidemment. C'est, il est resté dans un coin, il me titillait. En même temps, moi, j'avais vraiment envie d'arriver à en faire quelque chose, parce qu'un tas de pièces, c'est pas joli. Donc j'avais envie vraiment, et de temps en temps, je réessayais, et donc là, un beau jour, ça a craqué. Bah, c'est ça, le chercheur, on ne s'attaque pas à des casse-têtes en bois, on s'attaque à d'autres casse-têtes, mais c'est ça. Le jour où on trouve, par contre, on est super content. C'est le jour où toutes les pièces s'emboîtent, et on se dit, tiens, yes, ça y est.
Non, puis il y a un côté aussi, c'est quand vous trouvez un truc, et que d'autres gens ont cherché avant, et que vous êtes le premier. Vous trouvez un résultat que d'autres ont conjecturé. Moi, ça m'est arrivé une fois.
Vous arrivez en voiture, conjecturé
avant. Et là, vous trouvez et vous apercevez que, ben, en fait, non, personne d'autre avait trouvé la solution. Et là, ça fait un effet, complètement neuf. Ça fait du bien.
J'imagine que ça ne va pas être très loin des sensations que peuvent éprouver un alpiniste qui est le premier arrivé en haut d'une montagne.
C'est vraiment la même chose. C'est le côté.
Alors sinon, pour revenir plus précisément sur les points que j'avais envie de mentionner, je connais sentiment qu'on ne passe pas trop de temps avec ce genre de petites choses, oui, je pense qu'une petite visite sera pas mal quand même. Donc oui, moi j'avais envie de parler du chamboulement des fondations au siècle dernier. Après c'est un peu à vous de dire, hein, vous êtes là aussi pour orienter ce que vous avez envie d'entendre. À vous dire. Donc, moi j'ai envie de dire, le truc qui a vraiment changé les maths au siècle dernier, ou au moins vu de ma fenêtre, c'est le fait que les gens se sont aperçus qu'on ne pouvait pas faire des maths n'importe comment, foncer à toute berzingue, à construire des tas de pièces, et qu'un jour tout ce joli château de cartes pouvait parfaitement se péter la gueule et s'effondrer. Et qu'en gros, tous les trucs qu'on avait montés jusqu'avant, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui pouvait venir et dire ah, vous êtes des rigolos, mais vous avez construit vos jolis théorèmes en partant en bas d'un truc qui est juste. Si jamais vous empilez des tas de raisonnements sur un machin qui au départ se trouve être juste contradictoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois une phrase et à la fois le contraire, et là tout s'effondre, tous les résultats du dessus sont bien jolis, mais ça sert à rien parce qu'en fait ils ont la même équivalence que de dire juste et faux. Donc ça c'est arrivé, c'est vraiment arrivé au siècle dernier, ils étaient en train justement d'essayer de nettoyer un peu la cave et d'arriver à dire précisément ce que doit être le système de base, la logique, en gros comment faire un raisonnement mathématique. Ils étaient en train de nettoyer tout ça et quelqu'un est venu en disant ah oui, mais cette jolie proposition qui était en fait la façon dont les mathématiciens fonctionnaient à l'époque, quelqu'un est venu en disant oui, c'est rigolo, D'accord, voilà la façon dont ça fonctionnait à l'époque, un peu nettoyé, mais quand même, la façon de faire, c'était le programme de...
C'était le programme de Hubert.
Voilà. Et quelqu'un est venu en disant, ah oui, mais non, ça marche pas. Il y a un joli paradoxe. Paradoxe qui fait que la façon dont on faisait à l'époque s'écroule. C'était des histoires d'emboîtement d'ensemble à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qu'on appelle le paradoxe de Russell. Qui dit, alors la version imagée, c'est le coup du barbier. Où on imagine un village dans lequel il y a un barbier. Le barbier, son contrat, c'est de raser toutes les personnes qui ne se rasent pas. Elles. Alors du coup, pourquoi pas? Et maintenant, là où ça commence à devenir vraiment, comment dire, excellent, ouais, en quelque sorte, c'est de se poser la question de qui rase le barbier.
Les futurs thésards, le
père. Voilà, exactement. Je recrute.
On recrute pas chez les jeunes, en fait. Hein.
C'est bien. Lisa, elle était ravie avec ton Rubik's chez
Fabrois. Sur le coup.
Ah, c'est pas lui, je croyais que c'était lui. Ah, non, je croyais
que c'était toi. Donc, pour en revenir à mon barbier, donc mon barbier il est censé raser tous les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. Alors maintenant, la question, c'est qui rase le barbier? S'il se rase lui-même, ça va pas, parce que son contrat... Du coup, c'est quelqu'un qui se rase lui-même, et du coup, son contrat est invalidé, parce que son contrat est de dire « je rase les gens qui ne se rasent pas ». Donc, il est en train de raser quelqu'un qui se rase lui-même, ça va pas. Donc, c'est pas possible. Mais si on prend à l'envers la situation où c'est quelqu'un d'autre qui le rase, donc c'est lui quelqu'un qui ne se rase pas lui-même, donc du coup son contrat dit tu devrais te raser. Donc en fait, quelle que soit la façon dont on aborde le problème, on obtient une contradiction. Et les maths de l'époque permettaient de construire ce genre de truc, de situation bizarre. Donc là, ça a été, en gros, il n'y a pas eu de suicide de matheux, mais enfin, on n'en était pas loin.
Il y a eu une dépression de Frege.
Voilà, Frege était en train d'avoir fini d'écrire un superbe monument d'ouvrage là-dessus. Et je crois qu'il était, voilà, il était déjà parti chez la primeur, ou presque. Ah ouais. Et quelqu'un lui envoie une lettre. À l'époque, il n'y avait pas de mail. Ça passait par l'aile, le fameux Russell du paradoxe de Russell, qui lui envoie une lettre en disant « Ah, je crois qu'il y a un hic ». Frege reçoit cette lettre et s'aperçoit qu'effectivement, il y avait vraiment un gros souci. Pas un truc qui se corrige en train, un vrai gros souci fondamental.
C'était surtout le problème, c'est que avant on raisonnait en maths, on savait pas trop les règles de raisonnement, on savait pas trop comment on raisonnait. Alors tant que chacun faisait ses petits raisonnements dans son coin, ça allait. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, quand les gens faisaient les raisonnements en arithmétique, ça allait. Quand ils faisaient leurs raisonnements en géométrie, ça allait. Quand ils faisaient leurs raisonnements en algèbre, ça allait. Puis évidemment, les maths du 19e, on commence à tout mélanger. On fait de la géométrie avec de l'analyse, on fait de l'analyse avec l'arithmétique. On mélange les ensembles là-dedans, on commence à tout mélanger. Du coup, il faut connaître les règles de raisonnement communes.
Les règles de raisonnement, en quelque part, c'est la façon de procéder pour que tout le monde, toute personne normalement constituée qui a appris un peu de maths, soit convaincue que ce que tu as fait toi marche. Donc il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de règles de base qui permettent d'avancer sans se mettre les pieds dans le tapis. Et donc chacun avançait dans son petit domaine et les autres gens du domaine étaient d'accord. Quand on fait des calculs sur les entiers, c'est pas trop dur de se dire que si on a 1 plus 1 égale 2, alors on a 2 égale 1 plus 1, des choses comme ça.
La deuxième, la moitié du 19e siècle, c'est en fait le fait que toutes les mathématiques se sont connectées les unes aux autres. C'est qu'il y avait plein de petits morceaux un peu épars, et qui est vraiment une... Vous, quand vous apprenez les maths, vous apprenez d'un côté les vecteurs, de l'autre côté l'algèbre, de l'autre côté ceci, cela. Mais vous avez vu la première connexion quand même. Il y a eu une première connexion dans l'histoire, vous l'avez sans doute pas vue comme une connexion, mais c'est une connexion. Vous avez vu la géométrie. J'ai fait de la géométrie, je suppose, un petit peu. Vous avez vu les droites, etc. Et vous avez fait de l'algèbre aussi. Vous avez résolu les équations. Et vous avez vu une première connexion entre les deux, qui est qu'on peut décrire des phénomènes géométriques à l'aide des coordonnées, les transformant des équations. Et ça, vous savez faire ça, je suppose.
C'est de résoudre des problèmes de géométrie avec de la...
C'était une découverte absolument incroyable, c'était de dire qu'en fait, les gens qui raisonnaient en géométrie pouvaient traduire le problème en des problèmes d'algèbre, mais du coup, les gens qui raisonnaient en algèbre pouvaient traduire le problème en des problèmes de géométrie. Et en fait, ça c'est la première connexion qui s'est faite entre deux branches, c'est celle que vous avez vue à l'école. Et en fait, maintenant, depuis, on a connecté tout. Tout a été connecté. Et du coup, on est capable de transporter les méthodes de raisonnement, sauf que le jour où on a tout connecté, eh ben, il a fallu des gens qui mettent en place les règles de raisonnement communes à toutes les mathématiques, le fameux Frege qui s'y collait, jusqu'au jour où il a fait son traité, où enfin il avait les petites règles de raisonnement de base par lesquelles toutes les mathématiques jaillissent. Et le jour où il a enfin ses règles, il a enfin le Graal, l'étape de la loi. Voilà, c'est Moïse, il a l'étape de la loi, il sait comment on raisonne, il écrit ça, et puis une petite lettre, il a envoyé des épreuves de son manuscrit un peu à droite et à gauche chez les copains. Et puis Russell, il fait il y a un problème. Il y a un problème, et Russell, en gros, a démontré que 0 égale 1. C'est pour ça qu'il a démontré. Mais de manière parfaitement rigoureuse, en suivant la règle du raisonnement autorisé.
Donc patatras, et après, donc il a fallu. Ça a pris un petit bout de temps, un grand bout de temps pour arriver à avoir une version patchée. Oui, si, bon.
10 ans.
À chaque fois, c'est qu'une branche des maths qui...
Justement, il cherchait à faire une sorte de grande unification, de dire les choses communes à toutes les branches des maths, en gros, il ne cherchait pas à décrire les axiomes de tel ou tel domaine, alors les axiomes des nombres, ou les axiomes de la géométrie, ou les axiomes, bon, c'est des choses qu'on se met d'accord sur les axiomes, point barre. Par contre, non, là, il cherchait
à trouver les principes communs,
les raisonnements, ce qui permet, à partir d'un certain axiome, d'avancer et d'aller chercher les théorèmes qui suivent. Donc là, si jamais on a un problème dans le raisonnement, le raisonnement permet de dire, tiens, j'ai un nombre qui est à la fois 0 ou 1.
Ça, on déjà une contradiction dans toutes les branches des mathématiques.
Il y a un théorème qui dit que si jamais on a faux, alors on peut avoir n'importe quoi. C'est une des règles d'ailleurs.
Si on arrive à démontrer 0 égale 1.
Si on sait que, je sais pas, les poules ont des dents, à ce moment-là, tu peux dire, demain il va geler à moins 10 ici. Parce que les poules ont des dents, ah ben non. Voilà. Donc si jamais on trouve un hic là-dedans.
On va même prouver que demain il y a la canicule.
Ah oui, aussi. Oui, moins 10 ici, c'est plutôt crédible ça.
C'est crédible ici. Il y a la canicule demain, ça va être pas crédible.
Donc voilà, il a fallu, donc le siècle dernier a commencé par justement une recherche d'un système qui lui ne se pète pas la gueule.
Parce qu'en fait, l'autre problème aussi, c'est quand on raisonne sur des objets simples en maths, ça va, on arrive à raisonner juste. Mais le problème, c'est que les maths.
Tout le monde faisait des additions depuis des années sans problème, évidemment.
Et c'est Dieudonné, en fait, il a donné une jolie. Définition des maths, il a dit les maths, c'est l'art de transformer des problèmes compliqués sur des objets simples en des problèmes simples sur des objets compliqués. Donc, ce qui était un truc que enfin, moi je trouve assez éclairant, c'est-à-dire, en fait, c'est la raison pour laquelle on fait les choses abstraites en maths. C'est que vous arrivez avec des problèmes qui ont l'air de simples, mais de rien du tout, sur des objets très simples, les entiers. Les entiers, c'est des trucs simples, vous voyez, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous les connaissez, c'est des objets que vous connaissez, et d'une certaine manière, ma vision des entiers n'a pas beaucoup changé par rapport à celle que j'avais quand j'avais votre âge.
Par exemple, si on veut vous donner un exemple plus simple d'énoncé sur des entiers, alors je sais pas, le Goldberg, c'est quoi? C'est qu'un nombre premier peut être décomposé en.
De Syracuse.
Même Syracuse. Syracuse, c'est une petite suite toute bête.
Je vais vous montrer un problème plus facile, c'est résolu aujourd'hui.
Ou, pour ceux qui ont mis ça là, on va supposer que c'est glissable. Là, donc la question c'est
on veut un chercheur a toujours un tableau approximatif.
Ah bah oui, c'est indispensable. On va partir d'un certain point de départ et après on va se promener de proche en proche avec une suite. Alors, vous avez dû entendre parler de suite un petit peu.
Vous êtes dans quel niveau? Dans quel
première.
Vous avez déjà vu les suites?
Non, je crois pas.
Sinon, si vous ne cherchez pas, c'est juste des nombres les uns après les autres. Donc on parle d'un certain nombre que vous allez me donner. Puis après le jeu, la règle du jeu, c'est de dire si jamais ce nombre, est-ce qu'il est pair?
Si les paires,
si les paires alors à ce moment-là, je le prends 2. Jouer. Et si s'il est impair, et ben là, au lieu de le faire en 2, je le fais grossir. Je le fais grossir avec
3n plus 1.
3 fois le nombre plus 1.
C'est là. On zone sur. Et puis ensuite, on recommence. Et on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe.
Si on part de 5, par exemple.
Qu'est-ce qui se passe? Allez-y.
3 fois 5, 16.
16.
Ok.
Et là,
on est 8.
Je coupe en 2.
4.
Je coupe en 2.
Qu'est-ce qui se passe?
Je coupe en 2, 1.
Et qu'est-ce qui se passe?
On remonte à 5.
On remonte à 4. Et à 4, qu'est-ce qui se passe?
Il y a 4, je l'avais déjà vu, donc il va se passer exactement la même chose qu'avant.
Voilà, et c'est 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1, 4 de 1.
Okay. Donc en gros, la suite n'a plus aucun intérêt une fois qu'on est arrivé.
D'accord, une fois qu'on arrive là, on a compris ce qui va se passer.
C'est fini, la suite, c'est
toujours 4 de 1, 4 de 1. Maintenant, on prend un autre nombre. Je choisis un nombre, allez-y.
Pas trop gros, sinon vous allez y passer du temps.
7.
7, ok. Ils sont modestes.
52.
On continue.
40.
40, ouais, c'est ça. 40, 20, 10, 5, ça y est, on est revenu au 5 de tout à l'heure.
Ouais.
On est retombé au 5 de tout à l'heure.
Là, après, bon, il suffit
on branche. Voilà, c'est fini. Et ça va retomber sur
4-2-1.
Allez, on essaye un autre nom.
Bon, je
crois que vous avez compris. En gros, à chaque fois qu'on essaye ce jeu-là, au bout d'un moment, on redégringole sur 4-2-1.
Toujours.
Mais si on change 3D de plus.
Ah bah oui,
c'est non, bien sûr. On prend cette règle, on bouge pas la règle, on prend juste la règle ça, vous voyez, on prend cette règle là. Et ben maintenant, je peux essayer de mettre en place cette propriété qu'on voit à l'expérience, quel que soit le nombre dont je parle, quel que soit mon point de départ, au bout d'un moment, quand je vais itérer le processus, je vais tomber sur 4-2-1. Et ben ça, expérimentalement, on l'a essayé sur des très très grands nombres, jusqu'à plusieurs milliards avec les ordinateurs actuels, et ça marche, expérimentalement.
On appelle la conjecture de Syracuse.
Personne ne s'est démontré que ça marche. Pour tous les noms. Personne.
Et pourtant, c'est diaboliquement simple.
C'est la création. Voilà. C'est un exemple de problème.
Personne ne s'est résolu. Comme contenu, mais c'est probable que le jour où quelqu'un arrivera à faire ça, c'est qu'il aura fait un raisonnement qui appliquera bien d'autres choses que des divisions et des multiplications.
On sera obligé de faire de
changer totalement
des choses beaucoup plus puissantes.
De passer sur des modes de raisonnement autres. En utilisant les bits, la décomposition des nombres, enfin, on ne sait pas trop, parce qu'évidemment, on n'a pas la solution, mais en tout cas, il y a d'autres problèmes simples, comme je pensais à Fermat, le fait que l'entier, si on le met à la puissance 16, ça va marcher, pour n égale 2, c'est OK, ça on sait en faire, vous prenez par exemple 3, 4, 5, 3 carrés, ça fait 9, plus 4 carrés, 16, ça fait bien 25. Là, on en a. Par contre, pour n strictement supérieur à 2,
on ne sait pas, ça n'existe pas.
Il faut quand même prendre des ABC. Et donc ça, c'est Fermat. C'est le fait que,
ça
que jamais, pour tout n plus grand que 2, on aura ce genre d'équation avec des entiers. Ben, ça, c'est un de Fermat. Donc l'idée, c'est pareil, c'est que ça s'exprime en 3 fois rien. Il faut juste savoir ce que c'est que la puissance, c'est-à-dire la forme de multiplication avec le jeu. C'est pas quand même très compliqué. Et une fois qu'on a ça, par contre, la preuve vient de Fermat.
Utiliser
ça part
des objets qui n'ont rien à voir.
Et
c'est pour ça qu'en fait, on a fait les mathématiques abstraites. C'est pour résoudre des problèmes si simples que ça. Mais
le théorème de Fermat, je pense qu'il doit y avoir peut-être une centaine de mathématiciens sur Terre qui sont capables de comprendre la preuve. Qui l'ont vaguement lu ou qui savent vaguement comment ça marche.
Mais c'est quoi les mathématiques abstraites?
En fait, c'est utiliser des objets de plus en plus compliqués. Donc, vous, les objets que vous connaissez en maths, c'est quoi les objets que vous connaissez? Enfin, les objets que vous manipulez en maths. Les nombres,
ouais.
Donc les nombres entiers, les fractions, les réels, donc ça c'est tous les nombres. Est-ce que vous avez vu les vecteurs?
Oui.
Les vecteurs, c'est un autre objet, un autre type d'objet. Vous avez les nombres, vous avez les vecteurs que vous avez manipulés, deuxième objet. Vous avez manipulé sous effet des fonctions,
oui.
Donc ça c'est un objet. Vous voyez que c'est un objet vachement plus abstrait déjà la fonction.
Ouais.
Vous voyez qu'une fonction c'est plus abstrait qu'un nombre parce que ça contient en elle-même une fonction, elle contient plein de nombres. Parce que elle vous transforme,
une fonction quelque part parle d'une infinité de choses.
Voilà.
Parce que si vous lui donnez quelque chose en entrée, elle va vous fournir une sortie. Donc elle peut a priori parler d'une infinité de choses.
Donc déjà une fonction c'est un objet qui est plus abstrait. Et ben après nous en maths on a continué. Il y a les ensembles de nombres, nous on demande des propriétés sur les ensembles de nombres, sur les ensembles de fonctions, sur les espaces de fonctions. Par exemple, on a plein de familles d'espaces de fonctions, les fonctions qui fonctionnent comme ça, les fonctions qui fonctionnent comme ça, etc. Donc, vous voyez, vous avez le nombre, c'est le truc de départ, vous avez des nombres de plus en plus compliqués. Après, vous avez les fonctions qui sont des sortes de super containers qui manipulent des nombres, c'est des boîtes à manipuler des nombres. Mais après, on peut faire des boîtes à manipuler des nombres, et on peut avoir des abstractions de plus en plus générales comme ça. Et donc, nous, dans les objets qu'on manipule, il y a eu tous les ensembles. Dans celles qui sont venues en maths, il y a eu les ensembles de nombres, c'est-à-dire les groupes. Les structures algébriques, c'est les groupes, les anneaux, les corps. Alors là, je vous parle normalement des choses, si vous connaissez, c'est pas normal.
Il y a l'histoire de tableaux de nombres, des nombres, par exemple, en deux dimensions, si vous mettez un tableau de nombres, après, les mathématiciens ont appelé ça des matrices. Voilà. Et les matrices, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec.
On s'aperçoit qu'on peut manipuler des tableaux de nombres, on peut les manipuler comme des nombres. Et du coup, après, on écrit des lettres. Quand vous écrivez une équation, par exemple...
Juste pour finir sur Fermat, par exemple, un objet mathématique, la preuve de Fermat utilise essentiellement, si j'ai bien compris, c'est des histoires de courbes elliptiques, c'est-à-dire des fonctions un peu bizarres qui ont des allures de machin avec une boucle comme ça, mais pas aussi simple que ça, des fonctions sur lesquelles on se demande ce que font les entiers. La fonction, a priori, c'est quelque chose qui travaille sur les réels, et là, les courbes elliptiques, c'est des machins qui font des propriétés bizarres sur des entiers. si on donne un entier à la fonction, il va se passer les choses, il va y avoir des points alignés. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est voilà, c'est des trucs effrayants.
Ouais, un jour, un prof a essayé de nous l'expliquer. Il est parti dans la stratosphère. Il a vu l'air comme ça. Et il faisait partie des quelques personnes qui comprenaient la preuve. Non, mais dans les objets abstraits, parce qu'en fait aussi on se rend compte que plein d'opérations qu'on a l'habitude de faire, en fait, elles ne marchent pas seulement sur les nombres. Elles marchent sur plein d'autres objets. Par exemple, quand vous écrivez ça,
je ne sais pas, vous écrivez A plus B, vous pensez que A et B sont des nombres. Oui. Et on pourrait très bien additionner deux fonctions. C'est tout à fait possible d'additionner les fonctions en disant, ben, pour additionner deux fonctions, ça fabrique une nouvelle fonction dont les valeurs une à une sont les sommes des valeurs précédentes. C'est-à-dire que vous faites la somme en parallèle de toutes les valeurs de la fonction. Ouais. Mais rien ne vous interdit ensuite de raisonner comme ça, en écrivant F plus G, et enfin, en résolvant des équations avec F et G directement.
Un exemple typique, c'est vous avez dû voir probablement la dérivée.
Oui.
Alors c'est quoi la dérivée? Qu'est-ce que vous donnez en entrée à la dérivée? Vous voyez la dérivée comme une espèce de grosse boîte noire. Qu'est-ce que vous lui fournissez en entrée?
Une fonction.
Vous dérivez quoi? Une fonction. Voilà, donc la grosse boîte noire qui s'appelle la dérivée, vous lui donnez à manger une fonction, et vous redonne quoi en sortie?
Une autre fonction.
Bah, donc voilà, la dérivée, c'est jamais qu'une grosse fonction qui prend une fonction en entrée et qui donne une fonction à la sortie.
C'est une fonction sur les fonctions.
Voilà, donc là, on est déjà monté d'un cran par rapport aux fonctions usuelles que vous voyez qui sont des fonctions sur des entiers vers les entiers ou des fonctions sur les réels vers les entiers. Voilà, vous avez une super fonction qui travaille sur des fonctions.
Alors, c'est ça qu'on appelle typiquement un opérateur. Et il y a des gens qui ont fait des théories sur les opérateurs.
Pourquoi quelque part, moi, j'ai rien dit de fondamental. J'ai juste, vous savez ce que c'est qu'une dérivée. Là, je vous ai juste dit ce que c'était que la dérivée sous un autre angle. J'ai requalifié la dérivée en tant que superfonction, fonction de fonction. Bon, bah, ça ne donne rien de spécial. Par contre, le jour où du coup on commence à combiner des dérivées, des intégrales et des machins comme ça, et bah là, l'intérêt d'avoir une vision abstraite, hein, de se dire qu'une dérivée, c'est jamais qu'une fonction, c'est qu'on peut revenir avec tout le bagage de ce qu'on sait déjà sur les fonctions et réutiliser tout ça. Donc l'idée de monter en abstraction, de créer des nouveaux objets et d'essayer de voir quelles règles ces objets suivent, et tant qu'à faire, essayer de retomber sur des règles qu'on connaît bien avant, ça permet quelque part de retrouver, de manipuler ces objets-là qui sont affreux, il ne faut pas se cacher, faut pas se voler la face, c'est dérivé, c'est encore vaguement compréhensible, mais intégrale et autres, ça finit par être vraiment affreux. Donc ce genre de choses affreuses, si on arrive à les voir sous une lorgnette qui les fait vaguement apparaître comme des choses un peu plus compréhensible avec des façons de procéder relativement compréhensibles, bah du coup on a gagné. Parce que ça, on sait le manipuler. Et du coup, à partir de ça, on peut reconstruire quelque chose encore plus compliqué. En gros, voilà, c'est le système base. Je vais parler des alpinistes tout à l'heure, c'est le système des camps de base. C'est-à-dire que pour arriver tout en haut du sommet, les mathématiciens ont souvent besoin de camps de base, d'une certaine étape, où on présente un certain objet avec un certain nombre de règles associées. Et une fois qu'on a bien compris cette étape-là, bah, éventuellement, on est prêt à aller rempiler une dose par-dessus pour aller chercher le cran du dessus. Et une fois qu'on a monté plein de crans, peut-être qu'à la fin, on a les outils qu'il faut pour arriver à vraiment démontrer le théorème.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les abstractions, l'histoire nous y a conduit, en fait. On avait vraiment besoin d'avoir des objets de plus en plus abstraits pour manipuler les problèmes. Et déjà, la notion de fonction, ce n'est pas un objet que vous rencontrez tous les jours. Si on manipule les fonctions et les dérivées, c'est parce que ça résout des problèmes. Vous savez pourquoi la dérivée a été inventée?
Pour avoir
Dans quel camp vous avez vu la dérivée la première fois, j'imagine?
On utilise la dérivée pour avoir les signes de la fonction.
Ah oui, mais ça, quelque part, c'est encore relativement abstrait. C'est encore les mathématiciens pour les mathématiciens.
C'est ce qu'on a vu en cours.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, du temps où j'étais passé au lycée, c'était assez mal fait. Et en fait, le premier moment où on entendait parler de dérivée, c'était pas en maths, c'était en physique. Parce que les physiciens en avaient absolument besoin. Donc c'est tous les problèmes
de chute des corps,
de mécanique. La vitesse d'un objet s'est exprimée comme une dérivée
du mouvement. D'une balle, la trajectoire d'un projectile. C'est ça au départ l'intérêt de la notion de dérivée. C'était de comprendre en fait, on a un projectile, on soumet à telle force, qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est pour ça qu'on a inventé la dérivée. Le problème c'est qu'on ne peut pas dériver les noms, mais qu'on dérive les fonctions, il faut qu'on pense que c'était une fonction. De fait, la notion de fonction est venue quasiment avec la notion de dérivée, c'est ça qui est effrayant.
C'est qu'en fait, souvent, les mathématiciens, ils manipulent les objets,
ils comprennent pas trop ce qu'ils font,
ou en tout cas, ils font ce qu'il faut, et ça leur suffit au moment où là. Et un jour, quelque part, on vient en disant « Ah, mais en fait, l'objet que vous utilisiez là, ben moi, je vais lui donner un nom. » Alors les gens disent « Mais ça sert à rien de donner un nom. » Mais souvent, en donnant un nom et en donnant une sorte de vision abstraite de l'objet, on gagne énormément en compréhension. Et on arrive à quelque part rassembler, unifier la vision et à aller un cran plus loin. C'est essayer de se débarrasser de la manipulation de la tambouille quotidienne pour essayer d'avoir une vision un peu plus abstraite. Et c'est ça que cherchent les matheux la plupart du temps, c'est arriver à avoir une super vision. Alors des fois ça marche pas, Là, par exemple, je parlais des matrices, c'est-à-dire des tableaux de nombres qu'on peut voir comme des objets usuels, et on va faire des additions, des multiplications. Ah oui, mais pas de pause, ça ne marche pas tout à fait comme les nombres habituels. C'est que si on fait la multiplication d'une matrice et d'une autre matrice, bah, d'habitude, quand on a des nombres, si on fait la multiplication de deux nombres, on se fiche dans l'ordre dans lequel on fait les choses.
Et là, la multiplication
de... La multiplication des matrices, pas de pause, ça ne marche pas. Ouais, si on fait la multiplication dans l'autre ordre, ça ne fait pas la même chose.
Vous perdez l'identité remarquable, c'est rigolo, c'est voir que l'identité remarquable ne marche pas toujours. Alors, en fait, dans les matrices, vous avez cette identité remarquable.
Ah oui, ça, oui.
J'ai pas fait gaffe, ouais. J'ai fait exprès. Alors vous, dans la vie de tous les jours, vous dites, oh, ben ça c'est 2AD. Manque de pot, les matrices. Alors maintenant, vous, dans les nombres, vous connaissez ça, c'est connu pour vous. Je fais volontairement un truc que vous connaissiez. Et bien en fait, on peut dire, ok, ça c'est A et B, c'est des nombres, mais on peut dire aussi c'est des tableaux de nombres. Et bien dans ce cas-là, cette identité remarquable, elle marche jusque-là, mais elle marche pas là, parce que j'ai pas le droit, l'ordre dans lequel je fais la multiplication, change la valeur du résultat. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de dire que AB c'est la même chose que BA. Du coup, je ne peux pas les additionner, je ne peux pas les multiplier.
On peut aussi aller plus loin en disant que les fonctions, quelque part, alors on peut faire des multiplications de fonctions comme d'habitude, mais on a aussi des façons de scotcher une fonction derrière une autre fonction. Et ça, quelque part, ça a un peu les propriétés un petit peu comme une multiplication. Mais là, on a aussi un problème, c'est que si on scotche une fonction derrière une autre fonction, ça ne fait pas exactement la même chose que donner la première fonction puis l'autre. Donc là aussi, on a des choses qui ne combinent pas forcément. Donc là, il a fallu abandonner les choses qu'on connaissait sur les nombres habituels et créer une nouvelle classe mathématiques, une nouvelle abstraction qui sont les objets qu'on appelle non commutatifs. On n'a pas le droit de les retourner.
Il y a de nouvelles règles de calcul qui permettent de raisonner dans certains cas, qui marchent dans certains cas et pas dans d'autres, etc. Donc en gros, on sait telle classe d'objets qu'on manipule et du coup on sait telle règle de calcul qu'on peut utiliser, quelle autre règle de calcul on ne peut pas utiliser. Et ce qui est joli aussi, c'est que du coup, quand on arrive à étendre les règles de calcul à des objets très abstraits, ce qui est joli, c'est que du coup, quand vous avez appris à raisonner avec des identités remarquables et que vous travaillez dans un monde où elles sont vraies, vous pouvez toujours continuer à faire des calculs comme vous faisiez, comme on le faisait nous en lycée. Donc moi, il m'arrive de faire des calculs comme je le faisais en lycée, donc c'est quand même agréable, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai appris à faire à un moment et je sais de nouveau le faire, sauf que maintenant, c'est plus des nombres à l'intérieur, c'est des objets beaucoup plus compliqués et je vais obtenir des résultats sur des objets beaucoup plus compliqués derrière. Mais je regardais, et donc du coup je les vois de loin, c'est-à-dire je les mets dans une petite boîte, et du coup vous voyez, A ça fait pas peur, ce qui est très beau. Donc en réalité c'est un objet gigantesque derrière, B ça, c'est un objet gigantesque derrière, mais c'est pas grave, j'oublie l'objet qui est derrière, et puis je démontre les choses, donc en faisant des calculs là-dessus.
En gros ça permet aux mathématiciens d'éviter de devenir fou, avec beaucoup trop de données à traiter. En gros la différence entre un ordinateur et un mathématicien, c'est que le mathématicien, quand même qu'il est très bon, il ne peut pas traiter toutes les informations en même temps. Il faut absolument qu'il focalise sur un point, et la bonne façon de focaliser, c'est d'oublier les détails et d'arriver à se placer sur une situation compréhensible.
Mais vous faites ça dans le cadre d'un travail, c'est ça
des TPE. Ouais. Les histoires de recherche. Bah, je sais pas, ils sont probablement mieux calés que moi pour
étudier tout ce qu'on doit. En pratique, en quel
personnel. Oui, c'est un dossier qu'on doit faire sur un sujet. Là, c'est les deux matières, c'est maths et histoire.
Ouais.
Donc après, bon, on fait le dossier, on le rend, et puis après, on pourra le présenter à l'oral.
Et avant, c'était en terminale et en première, et ils ont juste mis en première.
Ouais, maintenant, ils l'ont mis en première.
D'accord.
Après, qu'est-ce que j'avais envie de... Ah oui, donc, dans les histoires des fondations, je vais essayer d'avancer un petit peu, parce que j'avais prévu de raconter. Donc, il y avait l'histoire de Russell et son paradoxe qui a un peu mis le foutoir à un certain temps. Donc, ça a vraiment effrayé tous les gens qui s'intéressaient à
la fondation. Mais ça n'a pas bouleversé toutes les mathématiques, c'est juste...
Bah, quelque part, bon, il y a un certain nombre de mathématiciens qui ne se sont même pas aperçus qu'il y avait eu une crise. C'est autour de 1900...
Honnêtement,
ouais.
99% des mathématiciens se sont aperçus qu'il y avait une crise.
Bah mais en même temps, quelque part, il y avait quand même à l'époque des tas de... Par exemple, après j'ai mis le mot de Cantor, parce qu'il se passait quand même à l'époque, si jamais on en est venu à cette quête des règles de raisonnement les bonnes, et qu'il a fallu d'abord faire un essai qui n'a pas marché, ça a été la crise, il a fallu passer à une autre version, bah c'est parce qu'on arrivait aussi à manipuler des objets, là on parlait des objets, on était au moment où on commençait à manipuler des objets qui sont plus voilà, des noms sympathiques, des choses habituelles. Déjà, quand on parlait de dérivés, déjà à l'époque ça commençait déjà à grincer parce que quand on parle de dérivée, quelque part on est en train de dire ce que va grandir la fonction quand on va faire un tout petit mouvement. Et les tout petits mouvements, déjà il y a plein de mathématiciens qui s'étaient cassés la gueule en essayant d'imaginer ce que c'est que ces tout petits mouvements infinitésimaux qui correspondent à l'évolution de la fonction sur un tout petit chouïa. Déjà à l'époque on pouvait abattre des jolis raisonnements faux des jolies contradictions en utilisant ce genre de notions. Quand on a parlé d'intégrale, c'était encore pire. L'intégrale, si jamais vous n'avez pas encore croisé, c'est quelque part l'inverse de la dérivation, faire les choses à l'envers. Mais donc, à l'époque, oui, pour résoudre des problèmes de physique, ils étaient passés par des choses étranges. Donc, ici, c'est ces histoires de tout petits intervalles dans lesquels la fonction va grandir un tout petit chouïa. Et donc, il y avait des énormes problèmes de fondation. Et après, donc ça a été vaguement règle résolue par l'habitude. Les gens savaient qu'il ne fallait pas faire ça, sinon ils se pétaient la gueule. Il fallait rester dans un cadre à peu près bien balisé. S'ils sortaient du chantier balisé, ils explosaient. Donc déjà, c'est assez rigolo de se dire, le mathématicien doit faire telle chose et pas telle autre. Et pourtant, les deux ont l'air d'être à peu près normal. Donc là, c'est pour ça aussi qu'ils cherchaient des règles de raisonnement, aller chercher des fondations sûres. Et après, derrière, donc ça, c'était déjà un peu limite. Par contre, après, ça, là où c'était vraiment parti en vrille, c'est quand des gens comme Cantor sont allés se demander ce que c'était que l'infini. Ce que c'était que des choses infiniment grandes. Et en particulier, ce que c'est que des ensembles infinis. Par exemple, considérer l'ensemble des entiers. L'ensemble des entiers, ça va, c'est encore à peu près gentil.
Il y a d'autres exemples aussi. En fait, la vraie crise des fondements, ce n'est pas tellement du point de vue logique. Le point de vue logique, c'est la contre-vague, c'est juste après. Mais avant, en fait, c'est surtout les monstres dont tu parles. Mais il y a eu d'autres monstres. C'était les vrais paradoxes.
Les monstres de l'analyse.
C'était les monstres de l'analyse. C'était du style...
Ah oui, si jamais tu fais une suite infinie avec les 1 plus
non,
1
moi
moins
je 1. Vois la fonction, les vraiment monstres historiques, c'était... en fait, on était assez ennuyés parce qu'on a réussi, vous savez que les mathématiques grecques ont légué 3 problèmes au monde médiéval qui n'a jamais réussi à les résoudre, et qui n'ont été résolus que la moitié du 19e siècle. C'est fort quand même, les mathématiques grecques ont légué 3 problèmes qu'on ne savait pas résoudre. Donc les 3 problèmes, c'est la trisection de l'angle, oui. La duplication du cube, et je ne sais plus quel autre problème que j'ai oublié.
La quadrature du cercle.
La quadrature du cercle, merci. Voilà. Donc ça, vous avez dû en entendre parler de ces 3 problèmes. Et ces 3 problèmes ont été résolus qu'à la deuxième moitié du 19e siècle. Et pour ça, il a fallu inventer les maths abstraites. Pour montrer, par exemple, que bon, moi, le seul que je sais résoudre sur les 3, c'est la trisection de l'angle. Il est à peu près raisonnable pour un mathématicien moyen. C'est-à-dire que le fait qu'à la règle au compas, vous avez coupé un angle en deux à la règle au compas. Ça s'appelle la bisectrice. Pour ça, vous savez construire à la règle au compas une bisectrice. Alors la question, c'est à la fois, est-ce que vous savez construire à la règle au compas une trisectrice ? Donc, une trisectrice, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de couper votre angle en deux, vous voulez le couper en trois. Ou, pareil, vous voulez typiquement couper un gâteau en 9 parts. Donc 3 parts, ça vous saurez le faire. Tout le monde sait faire du 120 degrés, parce que 120 degrés, c'est 62 fois 60 degrés, 62 degrés, on sait faire. Mais maintenant...
C'est ça, il suffit de couper en 6, vous savez couper en 6 avec le compas.
Voilà, couper en 6, ça tout le monde sait faire. Donc faire du couper en 3, mais maintenant, chacun des tiers, le recouper en 3, c'est-à-dire couper un cercle en 9. Mais ça, personne ne savait, on ne savait pas le faire avec le compas. Et bien, il se trouve que ça a été un des résultats du 19e siècle, c'est ça qui a montré la force des maths abstraites, c'est qu'on a réussi à démontrer que ce n'était pas possible. C'est-à-dire que quelle que soit la suite de mouvements qu'on fasse avec la règle et le compas, il n'y avait aucun moyen de tomber sur la trisectrice. On pouvait te remettre aussi près qu'on voulait, c'est-à-dire un truc qui était très 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 proche.
La solution évidente, si jamais vous voulez faire quelque chose qui marche visuellement, en tout cas, c'est de prendre un rapporteur, voilà. Vous calculez votre angle, vous coupez en 9, et puis vous faites avec le joli rapporteur. Mais l'ennui, c'est qu'après, modulo l'épaisseur du trait, vous n'allez pas avoir exactement ce que vous voulez.
Vous allez chercher la version parfaite. Qui est vraiment avec la pointe. Et ça, c'était. Et donc, du coup, on était vachement contents des maths abstraites qu'on avait du 19e siècle, parce qu'elles avaient résolu en 50 ans 3 problèmes qui avaient tenu pendant 2000 ans. Je sais pas si vous voyez quand même, c'est un truc, 3 problèmes qu'on savait pas, on a résolu et la quadrature du cercle, et la trisection de l'angle, et la duplication du cube. Donc, du coup, on était très heureux des nouvelles maths modernes. Le problème, c'est que les nouvelles maths modernes faisaient apparaître de nouveaux objets. Et les objets faisaient des trucs délirants. Donc typiquement, c'est la courbe de Peano. C'est une courbe où vous mettez dans un carré. Et votre jeu, c'est de faire une fonction continue qui aille de ce point-là à ce point-là, par exemple, et en essayant de recouvrir le plus possible du carré. Mais si c'est une vraie fonction mathématique, comme ça, par exemple, c'est une fonction continue. C'est une fonction de largeur nulle.
C'est juste un trait.
C'est juste un trait.
Un trait, clairement, ça ne sert à pouvoir rien.
Mon marqueur, c'est pas un marqueur mathématique, mais d'un point de vue mathématique, c'est un objet de taille nulle, d'épaisseur nulle. C'est un petit crayon. Imaginez un crayon infiniment fin. Donc vous n'allez pas recouvrir de surface. Ce qu'a démontré Peano, en fait, avec les outils des mathématiques justement qui avaient permis de résoudre ces problèmes, c'est qu'en fait, en faisant ce qu'on appelle un passage à la limite, on pouvait faire une fonction qui oscillait tellement à l'intérieur du carré qu'elle recouvrait tout le carré.
et pourtant elle est sans épaisseur. Ça, c'est pour l'intuition, c'est pas normal. Donc en fait, comment a fait PME ? Il a dit, je fais une première fonction qui fait ça. Je lui ai dit, attends, là vous allez me dire, j'ai triché, j'ai parcouvert le carré. C'est pas grave. Deuxième essai. Je fais ça, je fais un détour comme ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ouais, mais là, j'ai pas recouvert. Troisième essai. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous avez vu ce que je fais ?
T'en as oublié,
je branche, voilà. Ok, ça vous va? Et vous avez vu comment on peut reconstruire le machin? Ce qu'a montré Peano, en fait, c'est qu'en partant de cette suite de dessins, c'est qu'on peut construire une suite infinie de dessins comme ça, et que, bon, avec les outils mathématiques que vous avez découverts, c'est qu'on peut trouver la limite de cette suite de fonctions. Que cette suite de fonctions a une limite, et que cette limite, c'est une vraie fonction, pas de problème, elle est bien définie mathématiquement, mais qu'elle recouvre le carré. Aucun être humain ne sait la tracer ni quoi que ce soit, parce que c'est des mathématiques, donc c'est des objets d'une précision infinie. Et ça voulait dire qu'en gros, l'intuition qu'on avait de l'infiniment petit, elle est croisée pas à ce qu'il y avait en maths.
Un autre exemple qui vous parlera peut-être plus, c'est de se dire qu'on peut pareil dans le même genre de petit bout, dessiner une fonction qui sera continue, comme vous avez l'habitude, c'est-à-dire un truc qui va se tracer sans jamais lever le crayon, et qui en fait sera jamais dérivable, nulle part. Donc dérivable pour vous, c'est juste que la fonction est sympathique.
Elle est lisse.
Elle est lisse, et du coup on peut mettre une tangente. Ça vous donne
une direction. Vous pouvez caser une tangente.
Même chose, à partir de ce genre de truc, on peut faire ce qu'on appelle la fonction du diable. C'est une fonction qui va être gentiment continue, mais jamais, au grand jamais, nulle part dérivable.
Il ne faudra jamais caser une tangente. C'est un électrocardiogramme en gros.
Et pour faire ce genre de bidule, il faut pareil faire quelque chose du genre. On part de la même, on a juste un truc bien régulier comme ça. Et après, on va lui faire un petit contre soubresaut. Bon, donc là, mis à part qu'ici, par exemple, on va avoir un problème, mais en tout cas, elle est gentiment dérivable ailleurs. Là, j'ai déjà quand même trouvé deux points où ça va pas le faire. Et bien, après, je peux continuer. Donc là, pour continuer, je reprends chaque petit bout là, et je lui remets un zigzag. Donc là, je prends mon premier bout et je fais un zigzag. Après, le deuxième bout, je refais un zigzag comme ça. Et le troisième bout, la même chose avec un zigzag. Et je recommence. À chaque segment, je lui remets un zigzag. Et ainsi de suite. Donc à la fin, je vous laisse imaginer l'horreur que ça va être. Si on essaie de dessiner, ça va faire un truc avec des soubresauts partout. Et donc si jamais on met de plus en plus de soubresauts et qu'on passe à l'infini, à la limite, on aura un machin avec des soubresauts partout. Donc à aucun endroit. En gros, c'est des points comme ça, au lieu d'être l'exception, deviendront
la règle.
Et donc il n'y aura jamais de dérivation à aucun point.
Pour les gens avec quasiment tangent.
Donc ça, c'est les problèmes qui apparaissent quand les mathématiciens ont commencé à faire joujou avec la chose. Il leur plaît énormément, c'est voir la limite. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé la notion de limite. C'est par exemple la fonction x2, elle grimpe et à la fin, si jamais je continue à dessiner sur mon mur, je vais monter à l'infini. Donc là, c'est la même chose. Pareil, objet un peu différent. Au lieu de parler d'une limite de la fonction en infini, on va parler de la limite. Donc au lieu de parler d'une fonction qui prend un nombre et en donne un autre, là on parle de fonction qui donne des dessins. Et donc on va faire la limite du dessin. Et à la fin, on obtient une fonction. C'est ça qui est très rigolo, c'est que quand tu fais une limite de fonction, on obtient une fonction, et cette fonction, c'est celle qui nous intéresse, c'est qu'elle n'est nulle part dérivable, des choses comme ça. Donc là encore, on change d'objet, au lieu de parler de nombre, on va parler de fonction, et on va aller voir la limite des fonctions. Bon, tout ça pour dire qu'on obtient des trucs qui sont relativement paradoxaux. Il y avait plein de gens à l'époque qui disent « non, il y a un problème. C'est pas possible d'avoir une fonction continue qui n'est pas dérivable. » Donc c'est pour clarifier aussi ce genre de trucs étranges. S'ils l'ont appelé la fonction du diable, c'est pas juste pour dire ça a l'air d'être étrange. C'est parce qu'ils croyaient vraiment que ce genre d'objet était diabolique.
Tu peux citer Banach-Tarski avec la puzzle équivalence de Joule.
Non, là j'ai plutôt envie de revenir sur Cantor, qui pareil sur les histoires d'infini, là aussi a amené des vrais soucis et des vrais gens. Il y a vraiment des gens qui ont pris Cantor pour un fou quand il a amené ce genre de ce résultat. C'est l'idée de se dire que les ensembles infinis, même s'ils sont infinis ou grands, genre tous les entiers, ils ont quelque part une certaine taille, un certain poids. Et si on prend. Donc son idée fondamentale, c'est que pour essayer de faire correspondre des ensembles infinis, on va essayer de les mettre en relation. Donc, si je prends tous mes entiers. Si jamais je vous dis là-dedans, regardez plutôt les nombres pairs. Là-dedans, vous avez tout de suite l'impression qu'à priori, des nombres pairs, il y en a moins. c'est bizarre de parler de moins, parce qu'il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 45, des nombres pairs. Il y en a une infinité. C'est pareil pour mes raisons. Mais, bon, on sent qu'à chaque fois, on fait 1 sur 2, donc quelque part, les nombres pairs, il y en a moins. Bah, pas du tout. Bah, pas du tout. Si je remets mes nombres pairs sur la ligne du dessous, et je peux continuer comme ça à l'infini. Et la propriété, c'est que je peux faire un petit trait qui, à chaque nombre, va lui donner un nombre pair associé, et à chaque nombre pair associé, va lui donner un nombre pair. Un nombre pas pair, un nombre de départ. Donc, quelque part, je peux faire un petit bâton comme ça, et énumérer tous les nombres, et énumérer tous les nombres pairs, et à chaque fois que je regarde un nombre pair, je lui mets un nombre pas pair en correspondance, et vice-versa. Donc, au final, ce que j'ai fait en mettant des petits bâtons comme ça, c'est comme si jamais vous voulez vérifier, par exemple, si votre classe, il y a plus de monde que dans la classe d'à côté, vous faites ranger tout le monde dans la cour, aligner les uns en face des autres. S'il y a quelqu'un qui dépasse le bout, c'est que vous avez plus de monde dans votre classe. Bah, là, on aligne tout le monde en rang, sauf qu'on ne peut pas vraiment tout dessiner sur le tableau, mais par l'esprit, on essaie de mettre les gens en correspondance comme ça. Et on peut construire des correspondances, et si on a une correspondance, c'est qu'il y a autant de monde dans un que dans l'autre. Donc, pas de problème, nombre pair, même si apparemment c'est un sous-ensemble. Voilà, les nombres pairs, c'est un certain paquet. Et les nombres entiers, les nombres N, a priori on a l'impression que les nombres pairs c'est une sous-partie de N, et on sait que c'est une sous-partie stricte, il y a du monde là. Et ce que dit Cantor, c'est quelque part ces gens-là, il y en a autant que tout. Donc là encore, contradiction, d'habitude quand on a un ensemble.
Vous connaissez la notation N ?
N, les nombres entiers. Donc si jamais, habituellement quand on prend des paquets comme ça, si on a un paquet et un sous-paquet strict, avec des gens en moins, bah évidemment le sous-paquet il est de taille plus petite. Voilà, pof, contradiction, quand on parle de nombre entier, on peut avoir un sous-paquet qui est à la même taille que le paquet entier. Et d'ailleurs aussi, le contraire, là, les nombres impairs, même chose, hein. Dans les nombres impairs, j'en ai autant que de nombres pairs, et j'en ai autant que du tout. Donc quand on commence à parler de taille infinie, on a ce genre de choses sidérantes qui apparaissent.
C'est le Hilbert qui avait trouvé une super terminologie pour ça, il avait inventé une image, ça s'appelle l'hôtel de Hilbert.
Ouais, c'est génial ça.
Ça, c'était
donc, au lieu de prendre des... Ça, imaginez que ces numéros-là, ouais,
c'est
des numéros de chambre. Vous êtes dans un hôtel, et il se trouve que l'hôtel, il est grand. Il y a de la place dans l'hôtel. Il y a un nombre infini de chambres. La chambre 0, la chambre 1, la chambre 2, la chambre... etc. Alors, supposez que quelqu'un débarque dans l'hôtel un jour où l'hôtel est complet.
Et c'est un ministre.
Ah, il faut absolument...
Alors, il faut absolument y trouver une chambre.
Il faut réussir à le caser quelque part, c'est indispensable.
Sauf que les autres sont des ministres aussi.
Le gérant, il n'est pas question de prendre quelqu'un et le vider de l'hôtel non plus. Comment on fait pour caser cette personne qui arrive sans avoir réservé. Voilà, exactement. On dit à tout le monde, bon, bah, suite à un léger problème technique, vous êtes prié de vider votre chambre et d'aller dans la chambre d'après.
La chambre d'à côté. Hop. Voilà. Et du coup, vous libérez une chambre.
Donc tout le monde a trouvé une chambre après.
Alors quand elle était
aucun problème. Il n'y a jamais quelqu'un qui va se trouver face à une chambre dont la chambre après, il n'y a rien. Il n'y a jamais de fin à l'hôtel. Et du coup, il reste la chambre zéro. Maintenant, nouveau problème. On suppose qu'il y a une infinité, le gouvernement est un peu large dans le pays qu'on considère, il y a une infinité de ministres.
Deux hôtels de Hilbert, il y en a un qui est en réparation.
Ah oui, oui, bon, si tu veux. Mais non, moi je considère qu'il y a un gouvernement avec une infinité de ministres qui débarquent. Maintenant, il faut coller l'infinité des ministres qui viennent débarquer dans l'hôtel qui est déjà plein.
Comment vous faites?
Ouais, il y en a qui se mettent dans les chambres paires.
Voilà, exactement, voilà. C'est le dessin que j'avais déjà mis. Donc, voilà, là, il y a un appel disant, suite à un problème technique, vous êtes prié de quitter votre chambre et d'aller à la chambre dont le numéro est le double. De la chambre où vous êtes. Donc, monsieur qui est dans la chambre 2, il est censé passer à la chambre 4. Et après, ça laisse, évidemment, les gens impairs. Et puis, il n'y a plus qu'à caser les gens dans l'infinité des chambres impaires. Mais attention, après, on peut.
Il y a la rue de Hilbert.
Pardon ?
La rue de Hilbert. Tu connais la rue de Hilbert ?
C'est
une rue infinie où chaque numéro de la rue. Donc il y a une rue infinie, 0, les numéros sont numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et chaque numéro de la rue, c'est lui-même un hôtel de Hilbert. Donc c'est une infinité d'hôtels de Hilbert.
À chaque endroit, il y a
un hôtel de Hilbert.
Une chose.
Ouais, c'est ça. Et maintenant, le problème, c'est qu'il y a un tremblement de terre et tous les hôtels de Hilbert, sauf un. Tous ceux à partir du... Après, tous les hôtels de Hilbert s'effondrent, sauf un. Sauf le premier qui reste. Et maintenant, il faut caser tous les gens de tous les hôtels de Hilbert dans un seul hôtel de Hilbert. Vous savez faire ça ?
Ouais, là, ça devient un peu tordu. Non, par contre, dans le temps qu'on a, je pense que c'est plus important de rencontrer ce qui peut se passer aussi les choses totalement différentes. Là, j'ai dit qu'il y a une infinité d'invités qui arrivent. Mais il faut que cette infinité ne soit pas trop, trop gigantesque. Parce que, donc là, c'est une infinité comme les nombres entiers qui débarquent.
Une infinité qui n'est pas trop gigantesque.
Mais donc, si jamais. Là, en gros, j'ai libéré de la place pour tous les nombres impairs.
Donc si jamais mon infinité de ministres qui débarquent et collent dans les nombres impairs, tout va bien. Mais la question maintenant, c'est est-ce que tout infini peut coller dans ces nombres impairs? Est-ce que tout infini a un peu la même taille que les nombres entiers? Là, la réponse, pareil, ça a vraiment sidéré les gens, la réponse est non. On peut trouver des infinis qui seront vraiment plus grands, et voire même énormément plus grands, que les nombres entiers. Et alors, l'exemple typique, c'est les nombres réels. Ce qu'on appelle avec grand R. Les nombres réels, en fait, il y en a beaucoup plus. Parce que les nombres réels, quelque part, c'est un peu le même genre de choses. Un nombre réel, quelque part, la façon dont vous avez de le voir, c'est une suite de décimales. Et éventuellement, la suite de décimales, elle peut être très grande si jamais, par exemple, vous avez 1.33333333. Donc vous avez potentiellement une infinité de chiffres. Bon, quelque part, vous êtes en train de... Il y a moyen de dire, bon, bah, chaque chiffre, quelque part, c'est une suite infinie de choses. Mais après, le problème, c'est que les réels, il y en a plein. Donc, on peut trouver des tas de nombres réels avec chacun leur écriture décimale, des choses comme ça. La question, c'est, est-ce qu'on peut, pareil, arriver à mettre en correspondance tous les entiers des nombres, tous les entiers avec des nombres réels? Alors là, je ne vais pas forcément continuer parce que, bon, le temps passe, mais après, il y a quelqu'un, le fameux Cantor, qui est venu avec une preuve excessivement jolie pour montrer que non, c'est pas possible de dire que ça, par exemple, ça va être le réel 0, ça va être le réel 1, ça va être le réel 2, et d'arriver à numéroter tous les réels, et à la fin, espérer qu'on a croisé tous les nombres réels. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a à chaque fois, si jamais on essaie de numéroter comme ça les choses, eh bien, l'argument de Cantor, l'argument diagonal, arrive à nous ressortir un autre nombre réel qui n'est pas dans la liste. Donc, comme ça, on n'arrivera jamais à mettre en correspondance les nombres entiers et les nombres réels. Donc, les nombres réels, c'est une chose qui est beaucoup plus. Bon, enfin, peu importe, disons que voilà, les nombres réels, on a commencé à travailler dessus et il y a des tas de choses qui n'étaient pas forcément des paradoxes. Maintenant, tout ça, c'est des choses qui sont communément admises et qui, à l'époque, froissaient énormément les gens. Donc, ils étaient en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces développements mathématiques bizarres dans lesquels on arrive à des conclusions étranges? Est-ce que c'est vraiment bien vrai tout ça? C'est aussi pour ça qu'on s'est posé des questions d'arriver à trouver des...
Dans le même ordre d'idée, c'est que non seulement on avait réussi à démontrer qu'il n'y avait pas le même nombre de points dans le naturel que dans les réels, en revanche, les réels, ça on sait qu'il y a le même nombre de points dans les réels que dans la droite. C'est la même chose, vous graduez votre droite, à chaque point de la droite, vous mettez un réel, à chaque réel, vous mettez un point de la droite. Mais ça, on a réussi à montrer que dans la droite infinie mathématique et le plan, il y avait le même nombre de points. Et ça, c'est Hibbert qui a vu ça, au début, il n'y croyait pas du tout. Il a envoyé un papier à Dedekind en disant « je le vois, mais je n'y crois pas ».
C'est ce qu'il a fait. Ça, par contre, du coup, l'idée est simple, c'est que votre plan, pour numéroter les endroits du plan, vous prenez deux axes. Donc vous avez deux coordonnées, x et y. Et c'est simplement se dire que deux nombres réels, c'est la même chose qu'un nombre réel en termes de quantité, comme ça, en termes de quantité infinie. Donc c'est le même exercice que le coup de la rue de la rue de Hilbert. Si jamais vous trouvez la réponse à au problème de la rue de Hilbert, vous saurez trouver le problème, la réponse.
C'est complètement différent.
C'est complètement différent.
C'est complètement différent.
Attends, comment tu fais ça? Ah oui, mais aussi tu entremêles
les décimales.
Si tu entremêles les décimales. Oui, donc ça n'a rien à voir.
Tu fais de la diagonale.
Oui, si on entremêle les décimales, ça marche. Bon, bref, faites pas attention aux élucubrations diverses. Voilà, donc, il y a des gens comme Cantor qui manipulent les objets infinis et trucs, donc voilà, il fallait vraiment quand même se préoccuper de comment les manipuler de manière sûre. Voilà, et tout ça, ça a amené à la théorie des ensembles, qui est maintenant la base la plus fréquente des mathématiques. Voilà, 99,9% des mathématiciens utilisent ça.
Ils ne le savent même pas.
Ils le savent même pas. Et la théorie des ensembles, c'est justement une théorie qui permet de manipuler des objets éventuellement gros, sans tomber sur des contradictions au détour d'un chemin. Et si vous voulez un nom derrière, c'est deux personnes qui s'appellent Zermelo et Franken, qui ont laissé leur nom à la théorie que tout le monde utilise maintenant. Voilà, donc, si jamais on regarde les apports du siècle dernier aux mathématiques, en particulier, il y a cette théorie de Zermelo-Franken, qui est le système que tous les mathématiciens utilisent, à quelques exceptions près. Par exemple, autour d'ici, vous trouverez des gens qui utilisent des systèmes différents parce qu'ils ont d'autres propriétés sympathiques. Mais bon. Sinon, après, dans les autres révolutions qu'il faut absolument mentionner du siècle dernier, toujours sur ces histoires de fondation, quelles sont les briques de base dans la cave des maths, c'est Gödel. C'est le fait qu'il y a eu un séisme. Alors là, pour le coup, autant la crise de Russell, ça a mis un peu de souk y a des gens qui ont été un peu terrifiés. Mais par contre, Gödel, là, pour le coup, ça a été plus qu'une révolution, ça a été un véritable séisme. D'ailleurs, il y a des gens pareil, qui sont vraiment désespérés par ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est Gödel? Donc, pareil, dans les programmes. Ah, Gödel, oui.
C'est la première victime, Gödel.
Oui, mais il était déjà un peu.
Il était déjà atteint
avant, donc il a été atteint après, il n'y a pas de problème. Donc, si on revient donc, autour de 1900, il y avait un congrès célèbre où. C'est Hilbert, le programme 1904. Les programmes de Hilbert, donc, ils essayaient de faire un catalogue des choses qu'il allait falloir faire dans le siècle, les problèmes que c'était vraiment pas raisonnable de laisser ouvert, il y en a marre, il faut absolument régler tant les problèmes, machin, bidule, les trucs. Bon, donc il y a une jolie liste de problèmes. Certains ont été résolus de manière positive, alors ils ont réussi à faire des preuves. Par contre, dans la liste, il y a aussi des choses qui n'ont jamais pu être résolues, ou résolues avec une réponse négative, contrairement à ce que les gens espéraient. Alors, dans les exemples, il y avait, donc, parmi les problèmes, il y avait cette question de trouver une fondation logique pour être bien sûr de ce qu'on fait en maths. Et les autres problèmes, c'était essayer de trouver une façon de montrer que les systèmes logiques sera ce qu'on appelle complet. C'est-à-dire qu'on pourra toujours, si je vous pose un problème, un théorème de maths, un jour, si jamais quelqu'un est suffisamment malin, il arrivera à le démontrer. Ou peut-être que si jamais le résultat est faux, il arrivera à démontrer le contraire. C'est ça ce qu'on appelle la complétude. C'est-à-dire que le système permet d'aller aussi loin qu'on veut, à condition d'être suffisamment malin. Et là, patatras, donc après les gens ont essayé d'arriver à une preuve de complétude pour le système que joli logique qu'ils avaient réussi à construire en réparation du premier qui avait foiré. Et donc ils ont essayé de se trouver des preuves. Au passage, j'étais aussi intéressé d'avoir une preuve que le système était cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouveaux problèmes qui à la maison ne vont pas s'effondrer 5 ans plus tard. Bon. Et alors, preuve de complétude, preuve de cohérence. Patatras, Gödel passe par là et dit non, votre système, c'est impossible de dire. Donc, déjà, le système n'est pas complet. Il y a des choses qui sont vraies, des vrais résultats mathématiques, qui est impossible de démontrer dans le système. Et on ne peut pas non plus démontrer leur contraire. Donc, ils sont vrais, mais impossible de le prouver et impossible d'essayer de prouver le contraire. Et deuxièmement, aussi, le fait que prouver que le système est cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de nouveaux bugs, pareil, vous êtes mal. Vous n'y arriverez pas à partir du système. Et bien quelque part, c'est, quand on y repense, c'est pas forcément si sidérant que ça, en tout cas le côté cohérent. C'est que vous êtes dans un système logique, patati patater, vous avez vos règles de raisonnement. Tout d'un coup, on vous demande, vous êtes dans un bateau, est-ce que votre bateau va prendre l'eau? Et en fait, la façon la plus usuelle de regarder si un bateau prend l'eau ou pas, ah non, c'est une mauvaise image, parce que votre bateau prend l'eau, il suffit d'aller descendre dans la cave du bateau et de regarder s'il y a des fuites. Mais imaginez un bateau dans lequel il est impossible de savoir s'il y a des fuites parce que vous n'avez pas accès à la cave. Ah, et du coup, il faut sortir du bateau et respecter la coque. Il faut sortir du système. Donc là, c'est la même chose. Si pour dire si un système mathématique peut être mis en contradiction ou pas, il faut quelque part aller en dehors du système. Et du coup, il a fallu du temps pour que les gens s'aperçoivent de ce genre de problème, de choses qui se mordent la queue. Et alors, concernant la complétude, là, ça a vraiment fait un choc, cette idée de résultat parfaitement vrai, qu'il est impossible de démontrer. Donc, il y a des choses qu'on sait qui sont vraies, et il y a des choses qui sont démontrables, et il y en a moins qui sont démontrables que de choses vraies. Alors, Gödel est venu avec un exemple de choses vraies mais pas démontrables, qui est un exemple fabriqué pour, vraiment un exemple artificiel, fait pour arriver à démontrer son théorème de Gödel qui dit ça, justement, il y a des choses vraies, pas probables. Mais peut-être que demain, un théorème, par exemple, peut-être la conjecture de Syracuse est quelque chose qui est vrai, alors on est intimement convaincu une fois qu'on a joué un peu avec, mais qui ne sera jamais démontrable. Alors, certains ont dit, oui, c'est la fin des maths, les maths sont mortes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en maths. Oui, c'est vrai, c'est juste que ça dépend d'un système. Par contre, après, rien n'empêche de changer de système, d'avoir un système plus fort, et en mettant plus d'axiomes, par exemple. Et typiquement, les choses qu'on ne savait pas démontrer avant, ben, on les met comme axiomes, puisqu'on en est sûr, et on continue. L'ennui, c'est qu'on obtient un nouveau système, et que le théorème de Gödel continue à s'appliquer sur le nouveau système. On a de nouveau des choses qu'on ne saurait pas démontrer dans le nouveau système. On peut recontinuer et regrossir le système. Donc bon, c'est pas Gödel qui affirme que les maths c'est fini. Il y a juste, et d'ailleurs on n'a pas vraiment trouvé d'exemple crédible de choses qu'on n'arrive pas à démontrer. Sauf que là on n'arrive pas à démontrer parce que c'est dur. Mais on ne sait pas si c'est juste parce que c'est dur ou si c'est parce que c'est Gödel qui passe et qui nous dit que non, cela on ne pourra pas. Mais personne ne croit raisonnablement à ce qu'il y ait des problèmes crédibles, des problèmes usuels, qui ne soient pas démontrables. Mais bon, sachez, en tout cas, il y a cette espèce de poil à gratter du théorème de Gödel qui dit « Ah oui, dans certains cas, vous n'arriverez pas à démontrer parce que le système ne peut pas. » Et là, effectivement, ça a fait vraiment énormément grincer des dents. Donc sachez qu'il y a ce genre de blague qui s'est fait au siècle dernier et ça a fait mal. au détour. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, donc il y a des histoires de logique pas standard, où les gens n'utilisent pas les mêmes logiques que les autres. Donc ça, je n'ai pas forcément envie d'en dire trop. Par contre, après, au niveau des ordinateurs, plutôt passer au deuxième point. Donc il y a cette histoire que maintenant, les maths, quelque part, c'est des sciences exactes, c'est de la physique. Si jamais que quelqu'un a une idée derrière la tête concernant, je sais pas moi, ses belles fonctions, sa belle suite, etc., qui a vraiment l'intuition de ça. Déjà, avant même de commencer à avoir des intuitions, il peut commencer par faire tourner son exemple, sa suite là, sur un ordinateur. C'est très facile de faire un programme qui va aller se promener sur les nombres et puis de regarder jusqu'où on peut aller comme ça et de constater qu'à chaque fois ça s'arrête à 1, mais éventuellement très loin. Donc voilà. Avant, et du coup, on a l'intuition après. Avant, les mathématiciens essayaient sur des petits exemples où ils avaient un certain feeling des choses, et donc c'est à partir de ce feeling qu'ils en déduisaient leur intuition, et l'intuition donnait des conjectures, et les conjectures, un jour ou l'autre, on finit par les démontrer. Ben là, c'est au point de départ, peut-être que maintenant, la plupart du temps, les ordinateurs permettent d'avoir une intuition. Donc, quelque part, c'est devenu l'éprouvette ou la loupe des mathématiciens à l'ordinateur. Il y a un autre domaine où c'est vraiment...
Et pour résoudre après.
Alors, pour résoudre après, ça c'est le point suivant. Mais là, je vais finir. Là, par exemple, pour illustrer ce point-là, il y a un domaine qui est vraiment fascinant, qui est le domaine des fractales. Les fractales, quelque part, c'est des jolies images. C'est un peu ce genre de choses là-bas, où on prend un petit bout et on essaie de le répéter comme ça à l'infini. Mais évidemment, ce genre de dessin, les mathématiciens y avaient déjà pensé avant, mais c'est impossible de visualiser ce que donne le schéma au bout. Une fois qu'on a fait 10 000 étapes, parce que tout le monde se lasse et on s'arrête. Par contre, avec l'ordinateur, c'est excessivement facile de visualiser ce que ça donne une fois qu'on a fait 10 000 et 100 000 étapes. Quelque part, une fois qu'on a fait 10 000 et 100 000 étapes, ça ne bouge plus beaucoup. Si on a une petite fenêtre, pas beaucoup de pixels, après avoir fait ces 100 000 étapes de ce genre de dessin, quelque part, on a une idée assez proche de ce que ça va être à la fin. Donc voilà, l'ordinateur permet de visualiser des choses, de faire des dessins éventuellement très compliqués. Donc ça, c'est le domaine des fractales. Je ne sais pas si vous avez croisé, c'est toutes ces choses un peu bizarres avec des tas de recoins et qu'en fait, quand on fait un zoom sur une certaine zone, on retrouve exactement presque le schéma entier. Donc il y a tout un champ qui s'est lancé là-dedans et sans l'imagerie fournie par les ordinateurs, ce n'est pas crédible de comprendre un peu ce qui se passe, même si on pouvait éventuellement y penser avant. Ce n'est pas un hasard si jamais ce genre de domaine qui s'appelle les fractales a émergé après l'apparition de l'ordinateur. Il y a plein de moments où on visualise uniquement grâce à l'ordinateur. En physique, les physiciens se servent l'ordinateur pour simuler les propriétés physiques et avoir un joli rendu. Après, l'autre exemple, c'est ce qu'on appelle les images en couleur. Les images où on voit quelque chose qui a l'air d'être une image tout à fait normale, de la Terre, de la Lune, je sais pas, mais en fait, avec les couleurs, là, ça ne passe absolument pas. Ce qu'on voit, en réalité, par exemple, une image radar qui a été retraitée avec des couleurs pour donner une image en fausse couleur, que l'on voit. C'est un peu la même chose. L'ordinateur permet de montrer certaines choses en maths. Après, donc ça c'est l'expérimentation. Après, il y a essayer de faire le boulot d'un mathématicien avec un ordinateur. Alors là, c'est un autre pan. Vous avez certains cas, par exemple, la plus grande partie, je suis désolé de vous le dire, la plus grande partie de ce que vous faites au lycée peut tout à fait être donné à manger à un ordinateur. Vous appuyez sur Entrée, l'ordinateur vous dit voilà ma dérivée. En le cas des problèmes de géométrie, c'est un peu plus délicat, mais il commence à y avoir des systèmes qui, vous leur donnez l'énoncé, ou plutôt vous dessinez vous-même les droites, vous les placez, et puis vous écrivez l'assertion que vous voulez à la fin, par exemple que toutes les droites sont alignées, tous les points sont alignés, choses comme ça, vous faites sur entrée, et en utilisant les mêmes théorèmes que vous, l'ordinateur va combiner tout ça et à faire l'exercice. Donc ça, c'est un petit peu expérimental encore. Par contre, tout ce qui est calcul de dérivés, intégrale de toutes les questions de nombre, ça c'est fait depuis des années, ça s'appelle Maple par exemple, ou Mathematica, c'est des logiciels qui font les calculs. Comment on sait dériver, c'est jamais qu'un tas de règles qui expliquent comment dériver un polynôme, comment dériver un inverse, comment dériver une exponentielle, comment dériver toutes les fonctions individuelles. Et après, quand vous avez un truc compliqué, c'est jamais qu'appliquer la règle de la dérivée pour la multiplication. Il y a un tas de règles, quelque part, faire une dérivée, c'est jamais que du calcul. Donc une fois qu'on a identifié ce que c'est que faire une dérivée, savoir faire un calcul, il n'y a plus qu'à lancer l'ordinateur sur ce calcul-là. Il y a des systèmes qui sont très très forts en ça. Maple, Mathematica, des choses comme ça. Donc il y a une grande partie de ce que fait soit un lycéen, soit un mathématicien quand il a des problèmes avec des fonctions qui peuvent s'automatiser sans aucun problème. D'ailleurs, dans certains cas, pour calculer une intégrale, l'ordinateur est souvent plus malin parce qu'il peut essayer des tas de choses. On vous reverrait ça en terminale avec les intégrales. Mais bon, sachez que tout ce qui est calcul, l'ordinateur, évidemment, il est là pour calculer, il sait faire très bien. Donc, après, par contre, là où ça devient plus plus étonnant et plus intéressant aussi de mon point de vue, c'est quand on essaye de faire avec l'ordinateur ce qui n'est pas du calcul. Ce qui n'est pas du calcul pur, mais plutôt du raisonnement, des preuves, quelque part. De la géométrie, typiquement. La géométrie, c'est une suite d'emboîtements de raisonnement, et ce n'est pas forcément aussi simplement... une fois le problème posé, savoir pouf, comment, quel chemin suivre pour aller tout de suite au résultat, faire le calcul. Parce que, bah, justement, il peut y avoir des tas de façons de faire la chose. Alors que dans le cas d'un calcul, on vous donne la fonction à dériver, bah, vous avez votre méthode pour dériver. Ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, c'est du calcul. Il faut bien voir cette distinction entre calcul, que l'ordinateur sait faire sans aucun problème, et raisonnement, où il faut éventuellement chercher, se trouver dans un cul-de-sac, revenir en arrière, combiner les choses qui peuvent éventuellement être très vastes. Donc maintenant, on arrive aussi à faire que l'ordinateur puisse aider à faire ce genre de démarche, de raisonnement. Pas tout le temps, des fois on ne sait pas faire. Sur des raisonnements excessivement compliqués, l'ordinateur ne va pas trouver la preuve à la place du mathématicien. Par contre, éventuellement, il peut aider le mathématicien à vérifier que ce qu'il a fait n'est pas faux et qu'il a bien suivi les règles qu'il était autorisé de suivre et qu'il n'a pas oublié un petit détail dans sa preuve. Donc c'est pour ça qu'on parle d'assistant de preuve plutôt que de démonstrateur. Voilà. Donc là, c'est typiquement le genre de truc dans lequel je bosse. Et il y a quelques exemples célèbres. Le premier où on a vraiment commencé à être un peu reconnu par les autres avec ce genre de choses, c'est un théorème qui s'appelle le théorème des quatre couleurs. C'est que si jamais vous dessinez une carte... une carte d'Europe, par exemple. Donc vous allez avoir la France avec son espèce d'hexagone, là. Vous allez avoir l'Allemagne, ici la Belgique, bon, un truc comme ça. Okay. Maintenant la question c'est, on veut essayer de colorier cette carte, comment géographie. Et donc par exemple on va mettre la France en bleu, l'Allemagne en rouge, la Belgique en vert. Et puis ici, si on a son couleur noire pour le Luxembourg, des choses comme ça. Et il y a un théorème qui dit que si la carte a certaines propriétés, c'est pas toujours le cas, eh bien vous pourrez toujours colorier votre carte avec au plus 4 couleurs. Et pourquoi ça? Bah, si par exemple ici vous avez la Hollande, c'est que la Hollande vous pouvez la remettre avec la couleur de la France, parce que la France et la Hollande n'ont pas de frontières. Vous pourrez recycler la couleur qui a servi dans le pays qui est tout en bas, au-dessus. Donc quelque part vous pouvez recycler des couleurs. Mais n'empêche qu'il n'y a aucune garantie. Il n'y a rien de vraiment particulièrement intuitif à ce qu'on en ait juste besoin de 4. Je crois que les limitations, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un pays qui ait, par exemple, un point comme ça, dans lequel on a 5 frontières. Sinon, évidemment, on a un problème. Parce que là, il faudrait mettre une couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 4, couleur 5, et on est mal. Donc, si vous jamais vous interdisez ces points comme ça, plus que triple, hein, vous pouvez avoir un pays comme ça avec une frontière. Ça, je crois que c'est encore autorisé. Ouais, mais par contre, vous ne pouvez pas faire ce genre de blague.
Si jamais, pardon, c'est tellement le problème des points multiples.
Par contre, après,
ça dépend exactement comment tu définis la frontière. Quoi. Est-ce que tu considères que deux pays qui se touchent par un seul point peuvent être quand même en une seule couleur? Par contre, il y a un truc important, c'est qu'il faut que les pays soient en un seul morceau.
Sinon ça fout. Oui, effectivement, j'ai pas parlé des confettis. Si jamais vous avez un confetti de la France qui est scotché en Allemagne, ou ce côté dans notre pays, là, ça peut poser des problèmes. Il faut que votre pays ressemble un peu à un pays quand même. Même si en pratique, il peut y avoir parfois des blagues avec les pays qui ont des enclaves, des trucs comme ça. Vous oubliez les enclaves et vous oubliez les pays qui se toucheraient avec comme ça un point frontalier pour des tas de. Mais bon, voilà. Si jamais vous imaginez une carte standard, bah, vous avez besoin de 4 couleurs. Et ça a été un sacré truc à prouver. Il y a eu des tas de preuves fausses, parce que les gens s'en allaient les pinceaux là-dedans. Et aussi d'ailleurs le théorème est suffisamment général, il ne parle pas d'un nombre de pays limité, il parle d'une carte aussi vaste qu'on veut. Oui, puis il faut que ça soit dans une carte, il faut tout ça que ça soit dans un plan. Si jamais vous imaginez les pays qui s'accumulent en 3 dimensions, ça commence à foirer. Donc, il faut absolument que ça soit un truc plan. Donc pour arriver à faire une preuve de ça, quelque part, il y a 2 étapes. L'étape qui consiste à passer d'une carte infinie, aussi grande qu'on veut, parce que ça on ne sait pas trop quoi en faire, se ramener à une carte finie, par exemple une carte avec 10 pays. Mais n'empêche qu'une fois qu'on sait que si le théorème est vrai pour toutes les cartes avec 10 pays, le théorème est vrai pour toutes les cartes aussi larges qu'on veut, ben c'est bien joli, mais ça ne suffit pas à avoir terminé, parce qu'il reste maintenant à explorer toutes les cartes à 10 pays. Et voilà, et donc là,
vient l'ordinateur, c'est que l'ordinateur, lui, peut énumérer, alors ce n'est pas 10 pays, je ne sais plus exactement, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un nombre de pays qui est important, c'est la configuration des pays les uns par rapport à les autres. Toujours est-il que, dans le pouvoir du problème infini, et par un vrai théorème de Mann avec du raisonnement, on arrive à se ramener à un certain nombre de cas. Fini, petit. Sauf que là, le nombre de cas, il peut y en avoir, je crois que c'était dans les 3000 au départ, voire même plus. Donc les premiers qui ont fait cette preuve du théorème des quatre couleurs avaient fait cette partie mathématique, et tous les cas ici à tester, par exemple un cas avec trois pays, un cas avec... il y en avait 3000 cas qui restaient à valider, là ils ont utilisé un ordinateur pour se débarrasser des cas. Alors là ça a commencé aussi à jaser dans la communauté mathématique qui, dans certains cas, refusait ce genre de choses et disait ceci n'est pas une preuve de maths. Parce que, ok, vous avez fait un bout en maths, mais le reste, là, c'est l'ordinateur. Qu'est-ce qui vous garantit que l'ordinateur ne s'est pas planté en chemin ? Qu'est-ce qui vous garantit que le programme que vous avez écrit n'est pas un programme qui va se contenter de vous répondre ? Oui, c'est vrai. Donc, souci. Et évidemment, les gens qui ont fait ça, eux, par contre, étaient persuadés que ce qu'ils avaient fait était bien une démonstration de maths. Donc, ce qui a changé aussi l'année aussi de dernier, c'est ce que c'est qu'une preuve de maths. Et maintenant, enfin, je pense qu'il y a une mouvance... plus que confidentiel, la plupart des gens commencent à accepter ce genre de choses comme une preuve mathématique au même titre. En gros, c'est comme si on avait pris quelqu'un qui avait exploré un par un les 3000 situations. Maintenant, on arrive à des problèmes qui nécessitent des solutions excessivement larges qu'un humain aura du mal à lire. Pareil, Fermat, on est arrivé aux limites de ce qu'une personne raisonnable peut lire dans sa carrière. Il y a très peu de monde qui ont compris ce que c'est. Pareil, ça, si quelqu'un essaye de lire le bouquin qui contient les 3000 cas, tellement insupportable en plus. C'est juste des cas et des solutions et des petits dessins. C'est à mourir d'ennui. Donc là, il faut vraiment l'ordinateur pour vérifier ce genre de choses. Ou alors prendre un moine qui va faire ça pendant toute sa vie. Et depuis, donc le système dans lequel je bosse qui s'appelle Coq, quelqu'un a appris le système Coq qui est en gros un assistant de preuve. C'est-à-dire qu'on essaye de vérifier les preuves que quelqu'un nous fournit. Donc on a vérifié la partie mathématique. Et comme dans Coq, on peut aussi faire du calcul, c'est sur un ordinateur. Eh ben, on lance le calcul sur un théorème qui est censé sur un certain nombre de cas, comme ça. Et ce qu'on fait tourner comme code, c'est pas n'importe quel code, c'est un code dont on est sûr que si jamais il répond oui, eh bien, ça veut bien dire qu'on a validé le cas en question. Quelque part, dans notre système, qui s'appelle Coq, on a bien à la fois la partie mathématique et l'assurance que si chaque calcul répond ce qu'il faut, bah, ça correspond bien au cas. Donc voilà, l'ordinateur commence à prendre de plus en plus de place sur les problèmes qui sont larges. On ne peut plus faire vraiment sans ordinateur, ça devient pas raisonnable. Et même si on fait les choses au papier, on n'a pas plus de garantie que si on a fait les choses avec l'ordinateur, parce que le papier, personne ne peut se tromper. Et là, sur cet exemple-là, il y a eu des tas de gens qui se sont gourés et qui ont prétendu avoir la preuve, et en fait, la preuve était buggée à un certain moment ou à un autre. Donc ça, c'était un exemple. Et l'autre exemple, c'est l'exemple de la conjecture de Kepler. Et ça, c'est pas encore fait. C'est quelqu'un qui a... Alors, conjecture de Kepler, c'est bizarre, c'est dommage, j'ai pas d'orange à proximité, mais vous imaginez un tas d'oranges. Et vous essayez de remplir le plus d'oranges possible dans une certaine zone. Par exemple ici, vous essayez de mettre des billes, et la question c'est comment arranger les billes pour qu'on en mette le plus possible dans une zone précise. Et en fait, la meilleure solution, c'est de laisser faire la nature. Secouer un peu, et laisser les oranges s'arranger d'elles-mêmes. Et en fait, elles vont s'arranger en se mettant les unes côte à côte, et dans l'interstice, elles vont se recoller. En gros, vous faites une pile d'oranges, et c'est ce qu'il y a de plus compact, qu'on puisse faire. Et après, l'ennui, c'est quelqu'un qui s'appelle Kepler, qui est connu aussi pour l'astronomie, est venu en disant « ça, c'est sûr que c'est l'arrangement le plus compact ». Oui, mais comment on démontre ça ? Et donc la conjecture de Kepler sur l'arrangement des oranges de la manière la plus compacte, ça marche pour les oranges, ça marche pour les atomes, tout ce qui est rond. Et bien, il a fallu attendre maintenant pour avoir une démonstration. Et le gars qui a fait la démonstration est un Américain qui s'appelle Hales. Et Hales a fait une preuve tellement compliquée, avec tellement de calculs sur les nombres réels, les inéquations, des tas de trucs, pas forcément d'un très haut niveau mathématique, mais au niveau quantité, par contre, il y en a une énorme dose. Et à chaque fois, ça met en jeu des calculs sur les décimales. En gros, il se ramène, pareil, par un problème infini, parce que le nombre d'oranges, il peut y avoir un nombre infini, il se ramène à un problème fini, avec des tas de situations, et il fait en sorte de vérifier que la compacité, le taux de remplissage, va bien toujours être plus grand dans tous les cas que le remplissage du tas d'oranges. Donc quelque part, il fait des encadrements du taux de remplissage. Donc il les calcule sur les nombres à virgule. C'est comme ça. Et là, pareil, les calculs avec des nombres à virgule, c'est dur d'avoir une certitude. Et là encore, il a utilisé l'ordinateur. Et donc maintenant, le problème, c'est, une fois que ça, ça a été fait avec un ordinateur, comment en être sûr ? Donc il y a tout un projet dans lequel le gars qui a fait ça est impliqué, qui consiste à repasser sur ce qu'il a fait, lui, au papier, avec un ordinateur qui faisait juste que les calculs, pour être sûr que ce qu'il a fait marche bien. Et d'ailleurs, quand lui a essayé de publier son résultat au tout début, en gros, les gens qui d'habitude passent derrière les articles pour lire et vérifier qu'il n'y a pas de coquille, avant que ça soit publié, on dit la partie mathématique, ça nous va, mais on ne peut pas être sûr à 100% parce que déjà c'est gros, et deuxièmement, vous utilisez un bout de résultat, un bout de calcul par ordinateur à côté pour vous sous-traiter les parties calcul à un ordinateur. Et nous, on ne sait pas vérifier que l'ordinateur a bien fait ce qu'il faut. Donc, quelque part, c'est la première fois qu'un papier a été accepté, alors avec une grosse note devant, disant « Cet article nous semble très bien, à 99%, mais on n'est pas sûr, il reste 1% de doute. » Et donc, le gars, du coup, vexé par ça, a dit « Bon, maintenant, stop, on arrête les bêtises, je veux essayer de démontrer ma preuve par ordinateur, de démontrer mon résultat par ordinateur pour être sûr, non pas à 99%, mais à 100%. » Donc, plus ça va, plus les ordinateurs commencent à remplir, à arriver dans le monde des maths. Bon, je crois qu'il est temps d'arrêter ce genre de blague. Oui, donc je disais, bon, pour tester les conjectures, on utilise l'ordinateur. Et maintenant aussi, la plupart du temps, les mathématiciens ne font plus les calculs idiots. Donc tout ce qui est calcul débile comme une dérivée, si la dérivée est un peu compliquée, ils arrivent de le faire sur le papier et ils le lancent sur l'ordinateur. En même temps, quelque part, ça c'est parfois un peu dommage. Si vous imaginez la situation d'un mathématicien du siècle dernier, quand il constatait que les planètes ne tournaient pas vraiment rond. Il se doutait du coup qu'il y avait une planète supplémentaire un peu plus loin, par exemple Uranus. Et du coup, lui, il se lançait dans des énormes calculs, prenant les données sur les planètes, pour essayer de trouver les perturbations étaient dues à une planète supplémentaire, et en déduire l'endroit de la planète supplémentaire. Donc, il y a un matheux qui a fait, plutôt un physicien, je crois, je ne sais plus ce qu'il avait comme formation, mais il a fait des tas de calculs. En gros, il a noirci des pages entières d'équations. Pour arriver à la fin. Et il faisait les calculs lui-même. Hein. C'était même quand il a, je sais pas moi, un sinus ou un cosinus, il fallait qu'il le fasse lui-même. Mais à l'époque, il n'y avait pas de machine à sinus ou de machine à cosinus. Donc voilà, et au bout de je ne sais plus combien d'années de travail, il a dit la planète est là. Ils ont pointé le télescope, ils ont trouvé la planète. Mais ça travaille de petit temps. Et donc ça, maintenant, plus jamais, quelqu'un ne fera ça, il délègue le travail sur l'ordinateur. En même temps, ça a quelques. C'est pas forcément tout le temps bénéfique, parce que dans le temps, quand il y avait des choses qui étaient tout simplement invisibles par un calculateur, alors parfois, heureusement, à l'époque, ils avaient des autistes qui savaient calculer très bien. Ils prenaient un autiste et ils mettaient un autiste dans le capot. Non, je rigole pas, ça se fait. À la place d'ordinateur, ils avaient un autiste. En même temps, parfois, les mathématiciens, quand ils n'avaient pas d'autiste sous la main et qu'eux, ils n'avaient pas envie de faire les calculs eux-mêmes, ils arrêtaient. Ils scrutaient la tête, ils réfléchissaient et ils trouvaient un moyen de contourner le problème pour faire les choses différemment. Et cette limitation de la puissance des calculs faisait parfois qu'on est arrivé à des raisonnements originaux pour contourner la difficulté. Donc des fois, la contrainte fait qu'on trouve quelque chose qui est parfois mieux que ce qu'on avait au départ. On peut trouver comme ça des méthodes. Bah, tout ce qui est développement limité, vous n'avez pas encore creusé tout ça. Parce qu'il y a des tas de situations où on a vraiment développé des outils qui, maintenant, on s'en sert encore, sans problème. Mais à l'époque, ça a été inventé parce qu'on avait besoin de faire des calculs éventuellement approcher et rapidement, à la main. Il y a tout un pan des mathématiques qui ont été créés aussi parce qu'on n'avait pas l'ordinateur à l'époque. Quelque part, parfois l'ordinateur peut aussi inciter à la chamardise. Je pense que là, il y a plus d'intérêt à avoir un ordinateur que de ne pas en avoir, mais il ne faut pas non plus toujours glorifier cet outil. Bon, et après, ouais, non, ça, je vais laisser tomber. J'avais envie de dire aussi deux, trois trucs sur le fait que l'ordinateur était aussi maintenant un objet de science. Ça peut servir à faire un peu la basse besogne des mathématiciens, ou même à vérifier que les mathématiciens ne sont pas gourés, mais ça peut aussi être une science entière. D'ailleurs, moi, si je suis ici chercheur en informatique, c'est pas parce que j'apprends aux matheux à se servir d'ordinateur, c'est parce que j'étudie l'ordinateur en tant qu'objet scientifique. Et après, il y a toute une théorie là-dessus qui explique ce que c'est que... qu'est-ce qu'on peut calculer, par exemple. Qu'est-ce qu'une fonction pourra calculer ou ne pourra pas calculer. Ça, c'est des gens comme Turing ou Van Neumann, des gens qui ont jeté les bases de ce que c'est qu'un ordinateur. Après, vous pouvez changer un Pentium en AMD ou autre chose, mais tout ça ne changera pas le fait que vous avez devant vous un ordinateur. Et il y a des limitations à ce qu'il peut calculer, et il y a des limitations à ce qu'il peut calculer en combien de temps. Des choses fondamentales qui ne dépendent pas juste de la quantité de mémoire. Ou genre de choses. Bon, mais ça, c'est pas tellement lié aux maths. Donc, à pouvoir, si jamais vous voulez en savoir plus plus tard. Et oui, donc à la fin, j'avais mis un petit truc sur le fait qu'il y avait une sorte de paradoxe. Il y a de plus en plus de mathématiciens, il y a de plus en plus de bouquins sur les mathématiques. C'est facile de trouver un bouquin qui va décrire un petit peu ce que font les mathématiciens. Je ne sais plus, il y a Le Monde de Sophie qui va parler de philosophie, il y a eu un bouquin similaire sur qui décrit un petit peu, je ne sais plus quel est le titre exactement. Mais voilà, il y a pas mal d'ouvrages de vulgarisation sur les maths. Vous pouvez facilement trouver des petits bouquins qui parlent de maths. Si vous voulez, mais quelque part, à l'inverse, les mathématiciens, eux, ont de plus en plus de mal à parler de ce qu'ils font. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les choses simples ont déjà été pas mal épuisées. Donc, ce que fait un mathématicien au quotidien en recherche, quelque part, c'est des trucs ultra pointus. Il y a certains exemples où on peut expliquer aux gens ce qui se passe. Par exemple, la suite de Syracuse est suffisamment simple pour être expliquée. Mais si vous regardez, par exemple, il y a eu un des problèmes célèbres posés qui s'appelle les problèmes de la Fondation Clay. Et il y en a un qui a été résolu, ou en tout cas prétendu être résolu récemment par un russe. Et rien que l'énoncé du problème, ça parle de variété de dimension 3 ou je sais plus quoi. Moi, je me suis raté la tête et j'ai regardé un peu un article qui expliquait ce que c'était. Parce que j'avais à peu près aucune idée au départ de ce que c'est. Et c'est pas explicable au commun des mortels, enfin, c'est pas explicable au grand public. En tout cas, pas de manière simple. Il faut prendre des jolies images et en tout cas, on n'est plus en train de parler, d'expliquer le problème véritable. Là, alors que là, je peux vous expliquer le problème véritable de Fermat ou de Syracuse. Sur un tableau, je vous donne vraiment le vrai problème. Donc on arrive parfois à des problèmes qui sont tellement compliqués que même l'énoncé du problème n'est plus facilement accessible au commun des mortels. Donc en gros, chaque matheux maintenant commence à être un peu dans son coin, alors qu'il y a un siècle, la grosse différence, c'est qu'il y a un siècle, un très bon mathématicien pouvait avoir un panorama à peu près complet de ce qu'il faisait en maths. Maintenant, ça c'est illusoire, sauf vraiment un énorme génie qui passe son temps à lire toutes les publications ailleurs que dans son domaine. Donc il y a un petit peu une fragmentation des mathématiques.
C'est devenu un métier personnel plutôt ?
Pardon ?
C'est devenu un métier personnel
Oui, ça devient un tas de chapelles, un tas de classes. Il y a le mathématicien qui fait ça. Un mathématicien des probabilités va parfois avoir du mal à parler à un mathématicien de, je sais pas, de l'analyse, ou encore dans la probabilité analyse, c'est proche, mais de l'algèbre ou d'autres choses. Donc voilà, ça c'est des évolutions aussi du siècle dernier, ça, c'est sûr. Il y a eu un foisonnement, et le foisonnement, ça a aussi fait que les gens sont maintenant dans l'espèce de petite bulle et ont plus de mal à parler. Ici, c'est sympa, c'est qu'on est vraiment à la croisée entre les problèmes de fondation, les problèmes d'informatique. Donc, on arrive quand même à échanger un certain nombre de choses. Mais pareil, en même temps, si jamais je vais dans trois bureaux à côté, je ne comprendrai absolument rien à ce qu'il fait. Et c'est comme ça. Et je sais que si jamais je voulais comprendre ce qui se fait dans trois bureaux plus loin, il faudrait que j'y passe plusieurs années pour lire tout ce qui se fait dans ce chemin. Il faut accepter ça, sauf à être un génie et arriver à tout digérer. Je ne suis pas. Alors, j'avais promis un petit tour de bureau, vu l'heure qui avance, on va essayer de faire ça. Au moins, vous avez des questions sur ce que j'ai baratiné.
Notre prof de maths nous avait parlé en fait d'une rupture entre les mathématiques appliquées, les mathématiques...
Oui, ça arrive aussi, effectivement. J'en ai pas parlé. C'est un peu une conséquence aussi de l'informatisation. C'est qu'il y a des tas de besoins en matheux qui est aussi lié au fait qu'il y ait maintenant moyen d'appliquer ce que font les matheux. Alors, pas forcément que avec des ordinateurs, mais souvent quand même avec des techniques. L'exemple typique, c'est la météorologie. La météorologie, ça part d'une équation physique, mais pas même quelque chose de très mathématique. Ça s'appelle les équations de Navier-Stokes. Ça explique comment les fluides se déplacent dans l'atmosphère. Et donc, du coup, si on prend toutes les coordonnées de tous les nuages, les températures à tel et tel point, on peut du coup imaginer comment les vents et tout ça, on peut imaginer quelle va être l'évolution pour quelques jours plus tard, du coup, des nombres ordinateurs. Et donc, effectivement, il y a des mathématiciens qui essayent d'affiner les équations pour avoir un truc plus réaliste encore. Les équations elles-mêmes, c'est le cadre général, mais dans certaines situations, on sait qu'elles partent en vrille. Parce que on ne sait pas calculer suffisamment précisément pour faire que la simulation soit crédible. Donc voilà, il y a des tas de gens qui sont impliqués dans ce genre de calcul de plus en plus précis. Donc oui, effectivement, la distinction entre mathématiques pures, un gars qui va aller chercher Fermat, il n'y a pas d'application à Fermat que je sache, même si en chemin on peut trouver des choses étranges, des choses qui parfois peuvent avoir des conséquences. Mais oui, après, il y a des mathématiciens qui sont là, pas tellement pour la beauté des maths, mais pour faire marcher un autre truc, souvent lié à la physique, par ailleurs, ou à des techniques. Bon, ça, moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous en parler, parce que je me considère plutôt du côté des maths. Des maths fondamentale, ou enfin, de l'informatique fondamentale, les maths fondamentales, les maths appliquées, bah, il faudrait circuler un peu dans, dans les étages. Et
mais
aller
ça,
voir.
C'est dû à l'informatique et...
C'est dû à des besoins, c'est dû à la professionnalisation. Il fut un temps où les mathématiciens, ils faisaient ça parce qu'ils avaient envie de le faire, ou parce,
donc,
qu'ils,
surtout depuis le 20e
peut-être siècle. Parce qu'ils avaient trouvé une bourse, et maintenant, je veux dire, la plupart du temps, la recherche, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui veulent des résultats. Et des résultats qui soient quelque part monnayables. Donc là, le coup de la météo, ça a les applications, et vous pouvez prendre à peu près tout ce que vous voulez, je sais pas, moi, l'ABS ou tout un truc, dans un système de freinage ABS, il y a forcément des équations sur comment arriver à simuler le fonctionnement du moteur, du frein et tout ça. Et derrière, il y a des maths. Alors, il n'y a pas forcément un matheux employé chez Renault ou d'autres, mais n'empêche, il y a quand même des gens qui sont impliqués dans des trucs très prosaïques, d'équations. Alors souvent, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les équations différentielles, qui essaient de simuler le mouvement. Et du coup, arriver à simuler des équations différentielles et à trouver la bonne équation différentielle pour le problème, arriver à en faire quelque chose, ça peut effectivement avoir des répercussions économiques directes. C'est plutôt ça qu'on appelle les maths appliquées. Ou alors simuler, je sais pas moi, les problèmes d'une fusée dans l'atmosphère. Ou... Donc il y a un champ énorme de genre de choses comme ça où il faut des maths costauds pour arriver à décrire les phénomènes. Et puis, ce n'est pas forcément des choses qui sont aussi abstraites et aussi sans débouchés que ces trucs-là. En même temps, parfois, on tombe sur des débouchés complètement sidérants. Là, je vous ai dit que pour Fermat, il avait eu besoin de courbes elliptiques, hein, des choses bizarres et des entiers bizarres, etc. Ben, on s'est aperçu en chemin que les courbes elliptiques, ça fournissait des manières très sympathiques de faire de la cryptographie. C'est-à-dire des choses qui servent à encrypter les messages et qui sont pas faciles à décrypter. Donc bon, des fois on tombe, même en faisant des maths abstraites, pas forcément appliquées, on tombe sur des applications derrière. Mais bon, encore une fois, je suis pas du tout dans la mouvance des maths appli, donc allez voir d'autres personnes qui seront plus à même de vous en parler, je pense. On va aller voir s'il y a des... Vous avez beaucoup parlé des maths, on va aller voir s'il y a des maths.
Ça
m'envoie
l'extrait.
Ouais, je crois. Parce que là, moi, je vous ai dit, c'est mon sentiment, mais il y a probablement d'autres... Je vous laisse ça. N'hésitez pas à me demander s'il y a... En gros, c'est un truc que je jette sur le papier, histoire de...
Ouais, non,
Je
crois que c'était dans la semaine appliquée. Tiens, ils avaient dit ça.
Non, c'était pas vraiment ça.
Ah ouais?
Ça, c'est trois.
C'est trois points qui me semblaient importants. Mais peut-être qu'il y en a quelqu'un d'autre, d'ailleurs, on va voir si d'autres personnes, si on arrive à en croiser, ont peut-être d'autres points de vue sur les choses fondamentales qui se sont passées le siècle dernier.
On avait dit jusqu'à 4h. On va pas rester longtemps ce soir.
Allez-y,
descendez à l'étage. Ouais.
Comprendre comment l'explosion va se dérouler, comment arriver à mettre tous les bouts d'uranium ensemble pour que ça explose. Ce n'est pas des exemples particulièrement reluisants pour l'humanité, mais bah, il a bien fallu que des gens s'y collent si jamais ils voulaient une bombe pour l'humanité. Alors, je vous présente Jean-Luc Révine, qui est un de nos brillants mathématiciens. Donc, je vous rappelle, moi je suis du bureau de l'étage du dessus, chez les informaticiens, et ces gens-là sont venus me questionner avec des problématiques sur les mathématiques du siècle dernier, Et ce qui a changé au siècle dernier, dans le cadre d'un travail, ils appellent ça les TPE. Les TPE, c'est un travail de,
dossier,
de documentation sur, ouais. Dans leur lycée.
C'est en quelle classe ?
Première.
Première.
Et alors ?
Moi, je leur ai donné quelques, c'est pas tellement un problème, c'est, moi, je leur ai donné quelques pistes.
Prenez au moins les chaises qui sont là.
Moi, je leur ai donné quelques pistes sur ce qui me semblait important, qui avait changé au siècle dernier, à savoir toutes les problématiques sur les changements de fondation, de logique.
Vous avez 2900.
Qu'est-ce que j'appelais le siècle dernier ? Ah oui, le siècle dernier, pour moi, c'est le 19e siècle, mais vous, c'est le 20e.
Ah ouais. Ouais, je leur ai parlé d'un petit peu de logique, je leur ai parlé du fait qu'il y avait des ordinateurs.
Ce qui a changé en mathématiques ? C'est normal.
J'aurais dit qu'il y avait des ordinateurs qui avaient quand même changé un peu la façon de travailler.
Ouais.
Donc si jamais vous avez d'autres idées de choses que j'aurais pu oublier.
En mathématiques, ouais. Qu'est-ce qui a changé
la façon de travailler par rapport au siècle encore d'avant. Si, après il y a tous les outils de communication, si vous voulez en parler, les effets que maintenant, la proximité, les choses sont beaucoup plus diffusées qu'auparavant, vous avez aussi ce genre de choses à dire.
Oui, c'est surtout les. En mathématiques ou en informatique ?
En maths, en fait, ils sont venus me voir parce que j'étais allé faire des choses sur la classe sans forfait. C'est pour ça aussi que je mets quelques bémols sur ce que je dis parce que c'est mon point de vue d'informaticien qui parle. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'avoir le sentiment d'un.
C'est au 20e siècle qu'on a axiomatisé. On a tout formalisé. Et puis, on a tout formalisé, quoi, si vous voulez. Et après, on a commencé à faire logique, du point de vue logique, parce qu'en mathématiques même, les gens ont continué à faire des maths. Du point de vue faire des maths, ouais. Les mathématiques ont changé parce qu'elles ont évolué, bien entendu. Et la façon de faire des démonstrations et tout ça, comme ils savaient à peu près bien les faire vers la fin du 19e, au 20e, ils n'ont pas trop changé.
J'aurais quand même raconté 2-3 trucs sur les horreurs que les gens arrivaient à démontrer avec les infinis ou les.
Ça, c'était une mathématicienne. Ah, les paradoxes, mais c'est pas les mathématiques, les mathématiques c'était l'analyse, c'était les recherches.
Oui, même aux analyses, ils arrivent parfois à avoir des paradoxes, c'est des choses de manière.
Au 19e siècle, ils avaient. Non, ils ont déjà trouvé. Quand est-ce qu'ils ont trouvé les courbes, machin, les courbes, piano. C'est quand même le 20e siècle, oui, c'est ça, on a formalisé. C'est vrai que si on a formalisé, c'est bien parce qu'il y avait des trucs terrifiants. Les trucs terrifiants, c'était la cour de piano. Donc,
c'est celle où on va parler, Alexandre,
et les fonctions sont dérivées.
Les
fonctions continues, il y avait les trajectoires, les trois liens, par exemple. C'est les fonctions continues, ils ont dérivé nulle part, ça dérangeait. Alors on a commencé à dire, il faudrait avoir des méthodes de démonstration. Parce que l'intuition est très importante pour se fier qu'à des choses qu'on peut démontrer. À ce moment-là, il faut des définitions complètes, des axiomes complets, etc. Donc on a tout trouvé. Et c'est là qu'on a commencé, effectivement. Alors quand on a eu trouvé les axiomes complets, c'est la première fois. Quand on a tout trouvé, alors il y a des gens qui ont été contents, ils ont continué à faire des maths. Et à partir de là, il n'y a pas de problème. Quand on veut savoir si une démonstration est juste, on la fait comme on a l'habitude, parce qu'en gros, ça marche toujours. Mais si on a des doutes, on revient à l'action éthique. En fait, on voit comment ça décolle. Si ça décolle. Donc là, on a un moyen sûr de vérifier une démonstration est juste. Maintenant, donc après, on a continué à faire des démonstrations. Sauf les logiciens qui ont dit, c'est très bien.
C'est vrai qu'on rencontre un peu tendance à chercher la toute bête, effectivement.
Non, c'était très bien aussi, c'était très important.
Les mathématiques, elles sont aussi utilisées pour des recherches mathématiques.
Les mathématiques, vous savez, c'est un truc, c'est des recherches, c'est pas a l'air d'être parfait. C'est même pas, c'est complètement idiot de dire que ça sert. C'est pas que ça sert, c'est qu'on peut rien faire. Si vous savez pas raisonner, vous êtes foutu devant le. Hein, si vous savez pas raisonner, vous avez un phénomène, l'électricité, le machin. Et comme vous êtes un, si vous savez pas raisonner, que vous êtes un chat ou un chien, évidemment, ben vous ne serez pas plus avancé, vous ne construirez jamais des circuits pour utiliser l'électricité ou des, etc. Bon, parce que vous savez pas raisonner. Si vous êtes capable de raisonner, et vous commencez à raisonner. Et le raisonnement, c'est les mathématiques. Donc vous savez, quand on dit que les mathématiques servent, c'est complètement débile. Ça veut dire que le raisonnement sert. Bah oui, parce que si vous savez pas raisonner.
Mais comme exemple de mathématiques qui parlent des mathématiques, oui, il y en a. Par exemple, vous avez cité Gödel tout à l'heure. C'est l'idée d'arriver à faire un théorème mathématique qui dise des choses sur la démonstration.
Mais non, mais.
Bien sûr, on peut faire des recherches en maths sur les maths.
Oui, mais avant ça, les mathématiques, c'est le raisonnement. Et si vous vous souvenez, encore une fois, toute l'industrie et toute la technologie et tout le truc, on voit bien que des gens qui sont pas sur les mathématiques. Ils n'en reviennent jamais. Remarquez, c'est pas le téléphone de mobile qui est important, c'est le réseau qui est derrière. Mais bon, mais même, c'est pareil. Pour faire le réseau qui est derrière le téléphone mobile, bah, un type qui n'est pas capable de savoir que s'il y a un flic B et s'il y a un flic C, alors un flic C, il est foutu. Là, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, quand on dit que les mathématiques servent, c'est un peu bête. Mais vous êtes en train de dire, ah ouais, bah, le fait que je sois capable de raisonner intelligemment et de traverser la rue sans me faire écraser, ça sert. Bah oui, ça sert. C'est tout ça. C'est, vous voyez, donc les maths, c'est plus que ça sert, c'est pratiquement tout ce qu'on a fait à des points de vue. Si vous n'étiez pas. Après, il faut se donner la peine de fabriquer les objets, de faire les trucs. Mais si vous fabriquez des objets sans être capable de raisonner, vous ne fabriquerez pas grand chose d'utile. Donc, vous voyez, c'est un peu bête de dire que les maths, ça sert. C'est pour ça que quand on demande aux gens, c'est. Moi, quand on me demande si la mathématique ça sert, je dis, c'est comme le fait, oui, si vous savez traverser la rue sans vous faire écraser, ça sert. Donc ça sert tout le temps. Alors après, on raisonne à propos des mathématiques. Après, on se demande qu'est-ce que c'est que le raisonnement qui est si utile. Et que les animaux n'ont pas, quand même. Il y a quoi qu'ils font. Les maths, en gros, c'est ce qui nous différencie.
Il y a aussi une mouvance que je n'ai pas mentionnée, c'est le fait qu'on puisse faire après, pour faire marcher le téléphone, il faut faire des programmes dans le téléphone, il faut aussi concevoir des protocoles pour que le téléphone puisse parler avec un petit voisin. Après, on peut parfaitement faire du raisonnement pour essayer de vérifier que le téléphone ne va pas se coincer, il va pouvoir que parler au gars d'à côté sans se sentir les deux en conflit. Donc tout ça, c'est du raisonnement. Et bah oui.
Mais même, il fallait.
Qu'on les appelle des mathématiciens, qu'on les appelle pas des mathématiciens, derrière, il y a des gens qui font du raisonnement sur ce genre de choses.
Mais bien avant, en physique, dès qu'on a commencé, je sais pas, l'électricité, vous savez, les lois de l'électricité, c'est des gens qui ont raisonné. Les types qui regardaient les planètes, comment elles tournaient, ils ont dit, ah bon, ça se passe comme ça. Ben, toutes les théories sur les mouvements des planètes, c'était du raisonnement, parce qu'on voyait des trucs, on disait, ah ouais, réfléchis dessus. Mais dès que vous commencez à réfléchir sur un phénomène,
vous le voyez.
On le dit pas, mais donc, c'est pas dès que vous commencez à réfléchir, c'est quand vous commencez à y comprendre quelque chose. Quand vous avez avancé, vous pouvez le regarder comme ça. Tout ce qu'on a trouvé sur la fin. C'est énorme. Alors vous, évidemment, je sais pas ce que vous apprenez. En plus, ce qui me terrorise au lycée, c'est qu'on ne fait pas de démonstration.
Vous voyez des démonstrations de certains
des maths, c'est, de maths, hein. C'est ouais. Des démonstrations. Et
ça a atteint, ouais. Qu'est-ce qu'on vous a démontré récemment?
On a démontré qu'on a une partie F2A.
On a foutu en l'air l'enseignement des maths, hein, ça c'est sûr. Moi, à mon avis, au lycée, les gens n'ont pas une plus de mathématiques, c'est assez dramatique. Moi, je vois bien arriver les gens, parce que moi, j'en sais, je fais l'enseignement en premier cycle de l'université, c'est-à-dire juste après le lycée. Les gens qui arrivent, ils ne savent rien. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une démonstration. Les maths, c'est que des démonstrations. Donc, quand on vous dit qu'on fait des maths, vous ne faites pas de démonstration, vous ne faites pas de maths. Parce que les maths, c'est du raisonnement, et le raisonnement, ça dit que c'est c'est des démonstrations. Donc, si on devait vous apprendre des mathématiques,
en géométrie.
Il reste la géométrie, effectivement.
Il reste la géométrie.
Sinon, après, des outils qu'on utilise, des fois on démontre, mais ça, c'est moins souvent.
Ah, alors bien, mais c'est-à-dire, on peut faire. Le truc qu'on doit faire si on ne fait pas la démonstration, c'est au moins dire. On peut toujours raisonner en disant, bon, ben, je vais admettre ça parce que je peux pas, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas au niveau, je ne peux pas vous apprendre, donc on va admettre quelque chose. Bon, je fais comme ça. Puis il faut, de toute façon. Enfin, vous verrez bien, parce que quand vous arriverez à l'université ou ailleurs, nous, il y a que on fait des machines. Je sais pas. Donc le truc est, les démonstrations, elles n'ont pas tellement changé au XXe siècle. Mais si, on a simplement, on perfectionne. Sans arrêt, on a essayé de perfectionner. On avait un outil fantastique, justement, c'était le raisonnement. Si bien d'habitude,
repenser au coup de dernier, par exemple.
Et pourquoi il nous fait arriver à des choses invraisemblables? Et c'est là qu'on a commencé à dire, ah, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le raisonnement? Et ça, c'est la logique. La logique et l'informatique, c'est qu'est-ce que c'est que le raisonnement? D'abord, vous commencez par raisonner, ça a été tout ce qu'on a fait, toute l'industrie, tout le machin, hein, c'est le résultat du raisonnement. Et puis, bien entendu, il faut penser, et puis après, il faut fabriquer les trucs. Ça, c'est autre chose, c'est plus du raisonnement. Mais si vous fabriquez une montre sans avoir réfléchi un peu à la façon dont vous foutez les machins, vous ne fabriquez pas de montre. Il faut évidemment fabriquer les pièces quand même.
Ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'effectivement, les premiers à avoir essayé de décrire ce que c'est que le monde, ce n'est pas le siècle dernier, c'est les Grecs. C'est un truc qu'on appelle le syllogisme, par exemple. Si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. Ils ont commencé à poser un certain nombre de règles, mais le fait d'avoir une compréhension complète de ce que c'est que le raisonnement, c'est le siècle dernier.
C'est le XXe siècle, c'est la théorie de c'est en 1930. C'est Gödel, en 1930. Après, c'est un sujet très intéressant.
Ok. On va pas.
Mais c'est très bien que vous vous posiez pas de
questions. Il y a des gens qui se conseillent sur la recherche.
Je vais prendre un café. Ah oui. Oui, là, le truc, qui, effectivement, en ce moment, mais bon.
Même en informatique, on peut faire des choses sérieuses avec le raisonnement.
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'en informatique, dans les cursus informatiques, on quitte les maths immédiatement.
Oui, le problème,
c'est que. Et les gens
apprennent. Moi, j'essaie quand même quand j'apprends aux gens à faire des programmes en Java ou dans d'autres, à leur dire que derrière des programmes en Java qui sont fait et mettre tous les sens et à la fin de semaine, tu peux quand même aussi essayer de réfléchir dès le début. Parce que le programme marche.
Ah non, mais ça, c'est d'accord. Bon, ça, si vous programmez, c'est la même chose. Si vous programmez sans réfléchir, vous avez une chance d'arriver à créer quelque chose d'intelligent. Mais. Disons qu'il y a des maths qui disparaissent quand même pas mal dans le cursus d'informatique, ça n'a pas été plus. Moi je demande un café.
Alors qu'est-ce qu'on peut embêter? Chercheur en maths et en particulier sur ce qui a changé dans la recherche en maths au cours du 20e siècle, quelque chose comme ça. Tu veux résumer à peu près correctement?
Ouais.
Et je leur ai déjà raconté d'autres trucs. Je leur ai raconté le jogging aussi, comme ça. Qui rencontre plusieurs voies et plusieurs endroits.
Si je résume, comme on a dit, ce qui a changé au chapitre dernier, c'est les problèmes de logique, les décorations, c'est faire les dernières peurs, comment tester, valider les choses. Est-ce que j'ai raconté d'autres? Ah oui, puis il y a plus de gens. Oui,
c'est ça, sur la recherche en mathématiques, c'est plus
à cause du fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants et que le contrat maintenant c'est que tout le monde presque doit quelque part être amené à faire des études supérieures. Pour qu'il y ait des études supérieures, il faut qu'il y ait des profs du supérieur. Et comme le contrat du prof du supérieur est important, c'est de faire en même temps de la recherche, quelque part ça amène aussi plus de chercheurs. C'est une suite logique. Et il y a aussi le développement au niveau des instituts. Oui, je ne vous ai pas trop parlé des différents statuts. Moi je suis à l'université, donc j'enseigne et je cherche en même temps. Il y a d'autres personnes qui sont dans des, non pas à l'université, mais dans des centres de recherche, hein, comme le CNRS ou l'INRIA, qui eux, du coup, sont chercheurs à temps plein, qui ne sont pas censés forcément enseigner, mais qui peuvent. Mais par contre, après, tout le monde peut être gentiment mélangé dans différents bureaux. Et là, par exemple, vous avez un énorme membre du CNRS devant vous, en tant que national. Voilà, donc le contrat de personne en personne, c'est pas tout à fait les mêmes façons de faire. En tout cas, c'est pas le même statut.
En pratique, c'est pas si bien, ça change pas grand chose, si ce n'est que effectivement le temps consacré à la recherche n'est pas tout à fait le même. On considère quelqu'un qui est en poste à l'université, l'enseignement il prend la moitié de son temps. Quelqu'un qui est au CNRS, s'il ne fait pas d'enseignement, ben, il a tout son temps pour la recherche, il peut faire un peu d'enseignement. Finalement, le travail est le même, c'est-à-dire qu'on est dans les mêmes laboratoires et quand on fait de la recherche, on fait la même chose. Et puis, une des conséquences du fait qu'il y a beaucoup plus de gens, ça a changé aussi le volume des mathématiques. Les mathématiciens ont dit que c'est la pratique des mathématiques, c'est impossible aujourd'hui. Chacun travaille sur son domaine, essaye d'avoir une vue suffisamment large pour se passer pour si on n'avance pas, mais c'est plus possible d'avoir une idée réelle de ce qui se passe partout. Il me semble qu'il y a un siècle, c'était plus le cas.
Et il y avait quelques
publications évoluées. Il y a beaucoup plus de revues, parce que beaucoup plus de gens, c'est-à-dire beaucoup plus d'articles qui sont publiés. Donc avant, les gens s'échangeaient des courriers, des choses comme ça. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. Avec l'arrivée des ordinateurs, on communique beaucoup plus vite, mais aussi avec des échelles, des quantités beaucoup plus grosses. On ne peut pas lire tout ce qui est publié. Donc il y a des systèmes de contrôle de ça, parce qu'il faut vérifier que les articles qui sont publiés sont quand même des articles sérieux. C'est une machinerie qui est beaucoup plus grosse qu'avant, et qui s'accélère encore aujourd'hui, parce que avec les réseaux comme Internet, etc., enfin, publier, c'est rien du tout. J'écris quelque chose, je le mets dans mon ordinateur, je le pose sur ma page web et n'importe qui dans le monde peut y accéder. Donc ça augmente encore le volume. Comme ça devient facile, le volume augmente, on est un peu dépassé par tout ce qui peut nous arriver. Donc il y a des problèmes de tri à faire qui sont pas.
Le volume augmente et pas forcément la qualité. C'est une question. Comment repérer là-dedans les trucs brillants, les nouveautés majeures? Souvent le bouche à oreille marche très vite. Si quelqu'un démontre un truc vraiment fondamental, souvent ça. L'information se retrouve. Mais bon, ça reste quand même. L'idée, c'est pas forcément parce qu'on met 10 fois plus de mathématiciens qu'on aura 10 fois plus de terrain à l'arrivée. Ce qu'on apprend en mathématiques, c'est en tout cas que tout ce genre de petites choses n'est pas du tout linéaire. Linéaire, c'est si on en mettait 10 fois plus, on obtiendrait 10 fois plus de choses. Ça ne marche pas forcément comme ça.
Récemment, très gros problème, très gros et très vieux.
Ils en sont où d'ailleurs du prix, enfin du truc sur la fondation Pay qui avait été présenté entre.
Eh bien, il y en a au moins un de résolu.
Et celui sur les sur les variétés.
La médaille fine de Perelman, ça résout un des problèmes qui peut poser par un sujet.
Si vous n'avez pas déjà croisé, la médaille fine, c'est l'équivalent des prix Nobel.
Qu'est-ce
que il n'y a pas de prix Nobel en maths, il y a un prix qui est à peu près l'équivalent.
C'est la collecteur de Pacaré.
Non, le truc sur l'empilement des...
Ah, avec Kepler, ça, oui.
Ouais.
Ça, j'en aurais déjà parlé un petit peu.
Ça va avec les cafés aussi.
Ouais.
Ah bon, comment ça
a... Mais les mecs veulent formaliser la preuve.
Ah. Bah ouais, ça
je l'aurais déjà si dans le... Dans le...
Elle était pas dans les machins à Miami, donc je crois.
Il y a quelques gros trucs sur les noms premiers qui ont été d'arithmétique.
Oui, parce que si vous voulez voir une liste de problèmes ouverts... Donc, de la même façon qu'autour de 1900, il y avait Hilbert qui avait fait une liste des problèmes marrants à faire pour les gens du XXe siècle. Donc là, il y a des gens d'une fondation qui s'appelle la Fondation Clé qui ont redressé une liste des problèmes restants à régler. Et là, du coup, ils ont mis plus d'un million de dollars de récompense à ceux qui...
Sept problèmes avec un million de dollars.
Voilà. Si jamais vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends, vous pouvez essayer d'aller voir. Et d'ailleurs, la chose amusante là-dedans, c'est qu'il y en a au moins un, dont je me souviens, qui est purement de l'informatique, l'histoire des classes de complexité. On demande si, c'est un peu dur à expliquer, si les choses excessivement dures à calculer pourraient éventuellement se calculer en tant que polynomial ou pas. Et arriver à montrer ça ou montrer le contraire. Alors, le problème qui titille un peu les informaticiens théoriciens depuis des lustres, ça va, ouais, la personne qui réussira à le trouver aura un million. Donc encore une fois, il y a des tas de problèmes qui sont encore ouverts, hein, qui seront sans doute pas réglés demain, même s'il y en a un certain nombre qui tombent en ce moment. Voilà. À vous dire si jamais vous avez des questions, profitez-en parce que vous avez des personnes sous les mains. Moi, j'ai déjà en reparlant depuis une heure et demie.
Je vais vous intéresser à l'architecture vous-même. Ça vous...
Oui, effectivement, ça, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'ai oublié de commencer par ça.
Non, mais vous,
si ça vous intéresse.
Vous êtes venu volontairement?
Non, c'est pour un travail qu'on doit faire.
D'accord. Donc c'était forcé, c'est ça?
Non,
c'est... Je choisi.
Vous avez choisi, oui. D'accord.
J'avais quand même choisi d'aller voir les chercheurs.
Oui, d'accord. Bien sûr.
C'est déjà bien.
Il faudra leur raconter ce que vous en pensez à la fin. Aussi.
Oui.
C'est réciproque.
On a des gens bizarres dans des bureaux bizarres et des ordinateurs bizarres.
Ah, et des tableaux, regardez les tableaux.
Et les tableaux noircis de symboles et autres.
Voilà. On écrit même de travers.
Voilà, ce qui a changé au siècle dernier, en particulier, les tableaux n'ont pas changé, on continue à utiliser les tableaux. Parfois, il y a des feutres blancs. Ça,
ouais, et maintenant, on les photographie parfois. Et avant, il fallait effacer.
Pour stocker les...
toutes les notes. Alors, je suis désolé, parce que je dois partir.
Oula, je suis déjà en retard. Bon, donc, je vais vous laisser par là. En même temps, si jamais vous avez un peu de culot, vous pouvez continuer à circuler dans les couloirs et embêter les gens. Je pense qu'ils ne vous jetteront pas à la porte directement. Alexandre avait suggéré que vous montiez au 7e, parce qu'il y a d'autres mathématiciens et d'autres branches. Ah oui, vous pouvez monter à la bibliothèque. Il faut monter au 9e pour prendre l'escalier qui est tout au bout.
Vous avez une grande bibliothèque de mathématiques en
Europe. Des tas de bouquins de maths.
C'est vrai qu'elle n'est pas si grande. Enfin,
voilà.
C'est pas beaucoup.
Merci beaucoup.
Ok. Et puis bon, si jamais vous avez des questions de précision, mais autres, n'hésitez pas à m'envoyer des mails.
D'accord.
Je lis ça et des fois, j'arrive à répondre à tout ça.
Merci.
Au revoir. Au revoir, oui.
Au revoir.
Ok. Ah, du coup, si t'as pas beaucoup changé par rapport au siècle dernier, c'est que le point central de l'info, c'était pas la machine à café. C'est que parfois aussi, le public des labos de recherche énormément. Je pense pas qu'il soit des personnes déjà. Ok, donc à vous de me dire, si vous voulez vous circuler, il y a des ascenseurs. Si jamais vous voulez aller à la bibliothèque, vous traversez et aller à l'opposé, il y a des ascenseurs qui montent au 9e, parce que ceux-là vous pourront pas au 9e. Et puis si vous en avez marre, vous pouvez aussi.
Merci à vous.
Je peux éteindre.
plus d'état.